Vous êtes sur RTL.
En tout cas, je l'espère, comme tous les collègues de nos partis matins. Merci Jérôme. On vous embrasse. Alors que le président de la conférence épiscopale est reçu aujourd'hui à 14h par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, Alba Ventura donne la parole à 7h40 à la directrice de la rédaction du journal Témoignages Chrétiens. Christine Pedotti demande la démission de l'ensemble de nos évêques. Est-ce concevable, après les récentes tensions autour du rapport Sauvé et les 330 000 victimes d'abus sexuels imputées à l'Église catholique? Bref, la journée sera tendue. Tendue aussi les relations avec l'île de Taïwan, petite île, l'ex-Formose, est devenue un géant dans tous les sens du terme, un géant économique. Les Chinois sont hystériques après l'avenue de notre ancien ministre de la Défense et sénateur Alain Richard. Il a osé parler de pays concernant Taïwan et il sera notre invité à 8h20. Enfin, vous le savez, RTL vous accompagne face à la crise énergétique. Dès 7h15, Arnaud Touche nous expliquera dans sa brigade RTL qu'un Français sur quatre déclare avoir des difficultés pour payer ses factures énergétiques. Je recevrai ensuite le président de la commission de régulation de l'énergie, Jean-François Carinco. Cette situation si difficile va-t-elle durer? Je lui poserai la question. Nous sommes le mardi 12 octobre 2021. Très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, après l'agression de cette enseignante à Comblaville en Seine-et-Marne, trois élèves sont en garde à vue.
À commencer par l'élève agresseur qui a fait tomber l'enseignante. La vidéo a été vue 1 600 000 reprises. Les syndicats dénoncent un manque d'encadrement dans les lycées professionnels. Faut-il qu'un parlementaire cumule les fonctions pour être plus efficace? Le débat est rouvert. Des sénateurs affirment que sans leurs mandats locaux, ils sont coupés du terrain. Et puis la guerre de la pêche continue à Jersey. La France menace de couper le courant sur l'île britannique si nos pêcheurs continuent d'être interdits de navigation. RTL est sur place ce matin.
La politique, Olivier Bost.
Avec la saison 2 du feuilleton des Républicains qui peut commencer puisque Xavier Bertrand a décidé d'y participer.
Vous nous expliquez tout cela dès la fin du journal.
RTL Matin. L'enseignante de ce lycée professionnel de Comblaville en Seine-et-Marne est toujours en arrêt depuis l'agression dont elle a été victime vendredi dernier, jetée au sol violemment par un élève qui voulait sortir de cours. Trois lycéens de la classe ont été placés en garde à vue hier, Guillemette Franquet.
Oui, et parmi eux, bien sûr, le jeune agresseur, le lycéen qu'on voit sur la vidéo bousculer violemment sa professeure après lui avoir ordonné de se pousser, mais aussi deux de ses camarades de classe, ceux qui ont filmé la scène en plein cours. La vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux a déjà été vue plus d'1 600 000 fois. Le lycéen soupçonné d'avoir fait tomber sa professeure est majeur. Il a déjà l'interdiction d'entrer dans son établissement et devra passer devant un conseil de discipline. Les deux autres, eux, sont mineurs. Suite au dépôt de plainte de l'enseignante, le parquet de Melun a ouvert une enquête pour violence avec circonstances aggravantes car l'agression a eu lieu contre un enseignant et au sein d'un établissement scolaire.
Merci Guillemette Franquet. Cette agression suscite la colère des enseignants et notamment des représentants des établissements professionnels comme Sigrid Girardin qui est co-secrétaire nationale du SNUEP FSU.
Les collègues sont évidemment choqués par ce qui s'est passé, par cette agression forte, mais en même temps, ils ne sont pas non plus complètement étonnés puisque les faits sont connus dans les bureaux de la rue de Grenelle. Il y a une enquête tous les ans qui recense les incidents graves dans les établissements scolaires et les lycées professionnels sont des endroits où il se passe le plus d'incidents graves. On aurait besoin de plus d'adultes dans les établissements. Or, la politique ministérielle a supprimé 1000 postes dans les lycées professionnels depuis le début du quinquennat et nous n'avons pas d'équipe pluriprofessionnelle complète dans les établissements.
Sigrid Girardin, qui est donc co-secrétaire nationale du SNUEP FSU. En bref, il ira donc finalement. Xavier Bertrand soumettra sa candidature au vote des militants LR le 4 décembre prochain lors du congrès. Et alors que Valérie Pécresse et Michel Barnier, ses deux principaux concurrents, sont eux aussi toujours candidats. Pourquoi a-t-il changé d'avis? On en parle avec Olivier Bost et son édito juste après ce journal.
Il est 7h03. Cette question qui étonne ce matin. La fin du cumul des mandats, votée en 2014, on vous le rappelle, était-elle une mauvaise idée?
Alors tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais il se trouve que certains députés, certains sénateurs estiment que depuis qu'ils n'ont plus de mandats exécutifs locaux, ils sont en quelque sorte coupés du terrain, Thomas Després.
Oui, et parmi les arguments en faveur du cumul des mandats, il permettrait d'éviter la déconnexion des élus, selon Pierre-Henri Dumont, député depuis 2017 sous l'étiquette Les Républicains.
On a vu que ce qui faisait aujourd'hui défaut, c'est ce manque d'ancrage territorial des parlementaires qui votent des mesures sans savoir concrètement comment est-ce qu'elles vont s'appliquer parce qu'ils n'ont jamais été élus locaux.
Même avis pour François Pupponi, député et maire de Sarcelles dans le Val-d'Oise pendant 10 ans.
Si j'ai des compétences dans le domaine du logement, de la politique de la ville, c'est parce que j'ai été maire et que concrètement je voyais comment ça se passait.
Au sein de la majorité, la question fait fait débat. Les élus les plus expérimentés voudraient revenir sur cette mesure, pas les plus jeunes, comme Marie Lebec, députée LREM des Yvelines.
On est parfaitement capable de construire son attachement au terrain de manière différente qu'en occupant des fonctions.
Pour Hervé Marseille, le sénateur qui porte cette proposition, sans cette loi, plusieurs conflits sociaux auraient pu être évités.
Il n'y aurait peut-être pas eu les gilets jaunes si les parlementaires de la majorité avaient pu sentir ce qui se passait sur le terrain.
La proposition devrait être adoptée par le Sénat à majorité de droite cet après-midi, avant son examen à l'Assemblée nationale au mois de novembre.
Un débat donc à suivre. Merci beaucoup Thomas Després. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin reçoit cet après-midi à 14h le président de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort. L'ecclésiastique avait été invité ou convoqué, c'est selon, à venir expliquer ses propos sur le secret de la confession, plus fort selon lui que les lois de la République. Il avait ensuite, on le rappelle, regretté ses déclarations.
Dans un instant, ce sera l'un des sujets du jour et surtout l'un des sujets de la campagne électorale. Emmanuel Macron veut relancer la filière nucléaire. On vous explique tout ça.
RTL Matin.
7h06, la suite du journal d'Olivier Bois. Emmanuel Macron veut donc relancer notre filière nucléaire.
Oui, il devra annoncer ce matin sa volonté de créer notamment des mini-réacteurs en appui des centrales classiques. Le sujet du nucléaire fait débat. Greenpeace va d'ailleurs mener une action ce matin pour dénoncer les dangers de cette filière, notamment en ce qui concerne la gestion des déchets. L'ONG affirme d'ailleurs que la France a recommencé à exporter ses déchets nucléaires vers la Russie, alors que ces transferts avaient été arrêtés par Areva dans les années 2000. Yannick Rousselet est chargé du nucléaire à Greenpeace.
La France a décidé de reprendre ses exportations de déchets nucléaires vers la Russie, déchets qui débordent à Pirlate en ce moment, 330 000 tonnes. L'autorité de sûreté nucléaire a alerté sur cette saturation des déchets nucléaires en France. D'ailleurs, Orano a fini par nous confirmer, bon, elle ne pouvait pas faire autrement, nous avions les preuves, mais par nous confirmer qu'elle réexporte vers la Russie. Alors que nous savons que la Russie a des stocks considérables de ces uraniums appauvris, ces uraniums de retraitement, qui sont stockés en Sibérie, à ciel ouvert, et qu'elle n'a rien à en faire. Donc clairement, la France se débarrasse de ses déchets nucléaires en les envoyant en Sibérie.
Yannick Rousselet de Greenpeace au micro de Virginie Garin. Ces annonces sur le nucléaire font partie du plan France 2030 dont le président va dessiner ce matin les contours. Un plan d'investissement à plus de 30 milliards d'euros qui vise à faire émerger les champions de demain dans les secteurs d'avenir en matière industrielle, numérique ou pour permettre également à la France et à l'Europe d'être aptes à concurrencer les États-Unis ou la Chine. 6 Français sur 10 affirment avoir réduit le chauffage chez eux pour ne pas payer trop cher. Résultat du baromètre annuel du médiateur de l'énergie. Ce nombre a doublé en 2 ans et 1 foyer sur 5 déclare même avoir souffert du froid cette année. On y revient dans le détail avec la brigade RTL à 7h15. Et puis à propos des prix de l'énergie, le litre du gasoil n'a jamais été aussi cher en France, 1,53€. On a dépassé le précédent record de 2018 juste avant la crise des gilets jaunes. Une bonne nouvelle en revanche sur la reprise économique. Il n'y a jamais eu aussi peu de faillites en France, 2 fois moins nombreuses qu'en 2019, malgré l'arrêt progressif des aides de l'État. On y revient dans le détail tout à l'heure dans le journal de 8h.
7h09, RTL est à Jersey ce matin. Le dossier de la pêche continue d'empoisonner la relation entre l'Europe et la Grande-Bretagne.
Oui, 11 pays dont la France et l'Allemagne appellent l'Europe à faire front pour dénoncer le manque de licences de pêche accordées par les Britanniques. Contrairement à leurs promesses post-Brexit, la France menace Jersey de lui couper le courant en partie. L'île dépend en effet à 95% de notre électricité. Vincent Serrano, vous êtes à Jersey pour RTL. Les pêcheurs là-bas sont très remontés contre les Français.
La grenouille jaune encore trempée, Phil remonte de bon cœur son filet de pêche sur le quai, sans doute un peu plus vite que d'habitude.
Vous êtes venu pour faire la guerre. Mon bateau est prêt à vous accueillir. Et vous voyez cette cheminée? C'est notre générateur où on peut faire notre propre énergie pour éclairer cette ville pendant 100 ans. Si vous voulez savoir où est le problème, demandez à mon fils.
Vous ne pouvez pas avoir toutes les licences que vous demandez. Il y a à peine 60 bateaux à Jersey et le plus long fait 12 mètres. On est déjà en train de crever la gueule ouverte. Ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier, c'est la première fois qu'on me menace.
Des pêcheurs unis derrière Don Thompson, leur représentant qui, dans un préfabriqué gagné par la rouille au milieu du port, résume leurs pensées. Ils n'en veulent pas aux pêcheurs français.
Ce sont des amis avec qui on travaille depuis des années.
Mais au gouvernement français.
Si vous commencez à faire des menaces comme ça, calmez-vous, parce que vous ne serez plus aussi bien accueillis. Nous aussi, on est des pêcheurs qui devons nourrir nos familles.
Et en attendant de voir si la France met ses menaces à exécution, file. Et son fils Jack vont prendre la mer ce matin. avec le sourire.
Reportage sur l'île de Jersey par Vincent Serrano.
Et bien justement, l'île qui résiste aux Français, nous y serons à nouveau à 8h20 dans RTL Autour du Monde.
L'espoir de vérité toujours pour les familles des 5 marins du Bugalet Braise emportés par le fond en 2004. Le commandant du sous-marin britannique va être entendu cet après-midi dans le cadre d'une enquête publique à Londres. Les familles sont persuadées que c'est ce sous-marin en manœuvre à l'époque dans la zone qui a coulé le bateau en accrochant ses filets. La famine menace en Afghanistan. Un tiers de la population est en souffrance alimentaire. La situation du pays, l'un des plus pauvres du monde, est aggravée par le chaos économique provoqué par le retour des talibans au pouvoir. Un G7 consacré à cette question doit se tenir aujourd'hui à Rome. Et puis d'un mot de football, sachez que l'Allemagne est le premier pays à s'être qualifié hier pour le mondial de l'année prochaine au Qatar en s'imposant 4-0 face à la Macédoine du Nord.
Les courses ont lieu aujourd'hui à Saint-Cloud.
Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 10, le 15, le 16, le 13, le 4, le 11 et le 9. La dernière minute, c'est le 15. Pique-nique royal.
Et ce journal nous était proposé par Olivier Bois. Il est 7h11, la politique avec vous, Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
La saison 2 du feuilleton des Républicains peut commencer. Hein.
Bah oui, quel feuilleton. Mais la saison 1 se termine quand même sur un beau retournement de situation. Xavier Bertrand, après avoir assuré pendant des mois que, tel le général de Gaulle, il allait seul à la rencontre des Français, se range finalement au congrès des LR. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle revenir par la fenêtre ? Eh bien pourtant, c'est bien ce qui arrive. Coincé dans son aventure solitaire, Xavier Bertrand tente finalement d'être adoubé par son ancien parti.
Bah, c'est une bonne chose ?
Alors pour la droite, oui, qu'il a accueilli avec soulagement hier soir. Enfin, quand je dis la droite, c'est la droite entre Éric Zemmour et Édouard Philippe. Cette droite-là, en décembre, n'aura qu'un seul candidat. Et ça, mine de rien, c'est quand même un petit événement dans cette pré-campagne. La présidentielle est aussi une guerre d'usure psychologique. Un candidat porté par les Républicains dans un carré de tête, ça peut tout changer pour le second tour. Surtout si le niveau de qualification, 16-17% aujourd'hui, continue de rester aussi bas. Tous les scénarios restent possibles, tous les espoirs sont permis.
Alors la grande question reste, la droite peut-elle séduire ?
Alors son processus de sélection est un peu étriqué, avec les seuls militants à jour de cotisation, probablement autour de 100 000 votants, comme chez les écolos. Mais ça n'en est pas moins une vraie compétition. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Michel Barnier, c'est une affiche. Alors ce n'est pas 2017 avec un ancien président, Nicolas Sarkozy, et puis deux anciens premiers ministres, Alain Juppé et François Fillon. Mais 5 ans plus tard, les pronostics sont tout aussi hasardeux. Aucun sondage sur une base militante n'est sérieux.
Bon, la question qui reste aussi, c'est est-ce que Xavier Bertrand a vraiment une chance ?
Alors tout dépend d'une seule chose. Les militants vont-ils voter avec l'espoir de gagner la présidentielle à ce moment-là ou par pur attachement à leur parti ? Dans le premier cas, les sondages d'intention de vote n'ont pas fini d'animer cette campagne. C'est tout le pari de Xavier Bertrand, que les militants LR se disent qu'il est le mieux placé et que ça fait une bonne raison pour le choisir. Qu'ils oublient ses défauts, hésitants et inconstants, de celui qui a quitté le parti. Xavier Bertrand est candidat, mais ce n'est pas un candidat pour l'instant ultra rassurant pour la droite. Un homme qui change d'avis comme il l'a fait hier soir, est-il assez solide pour être président de la République ? Est-il très habile ou très opportuniste ? Ce sont les militants LR qui vont en juger. La saison 2 chez les Républicains est une nouvelle campagne dans la campagne qui commence.
Merci beaucoup Olivier Bost. À 7h40, je vous le rappelle, Alba Ventura reçoit ce matin Christine Pedotti. Elle est directrice de la rédaction de l'hebdomadaire Témoignages Chrétiens et elle réclame que les évêques français démissionnent collectivement suite à la publication du rapport Sauvé mettant lourdement, je vous le rappelle, en cause l'Église dans plus de 330 000 affaires d'abus sexuels. Rendez-vous dans moins de 30 minutes. C'est la préoccupation numéro 1 des Français, l'énergie, leur facture. Nous allons détailler dans un instant avec notre brigade RTL le baromètre publié par le médiateur de l'énergie. Puis nous serons ensuite avec Jean-François Caranco de la commission de la régulation de l'énergie pour comprendre si les prix vont continuer à s'envoler. Restez avec nous, bonne journée à tous, il est 7h15.
RTL Matin, Yves Calvi.
Et nous retrouvons notre brigade RTL à 7h18. Un Français sur 4 déclare avoir rencontré des difficultés pour payer certaines factures de gaz ou d'électricité cette année. C'est le résultat du baromètre annuel publié aujourd'hui par le médiateur national de l'énergie. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
L'énergie n'a jamais autant préoccupé les Français.
Oui, c'est tout simplement le sujet numéro 1 et cette inquiétude n'a jamais été aussi importante depuis l'existence de ce baromètre en 2007. 84% des Français interrogés se disent préoccupés vis-à-vis de leur consommation énergétique. Et ce baromètre Il révèle également deux choses. La première, c'est que cette année, 6 Français sur 10 ont réduit le chauffage chez eux pour ne pas avoir à payer de factures trop élevées. Ce nombre, il a tout simplement doublé en 2 ans. Le second enseignement, c'est que 20% des foyers interrogés déclarent avoir souffert du froid pendant au moins 24 heures dans leur logement. Là aussi, c'est 6 points de plus par rapport à l'année dernière. Et si les Français souffrent du froid, c'est majoritairement à cause d'une mauvaise isolation des logements. D'autres limitent le chauffage pour des raisons économiques et n'ont tout simplement plus le choix et baissent la température de leur intérieur volontairement. Enfin, il y a également ce dernier hiver qui a été plutôt rigoureux pour beaucoup.
Arnaud, est-ce que l'on sait ce que sont les publics les plus en difficulté face à la hausse des prix de l'électricité et du gaz qui atteint donc des records ces dernières semaines?
Oui, les 18-34 ans, assurément. C'est simple, presque 1 sur 2 a du mal à régler ses factures cette année. Ce n'est pas nouveau, mais ce chiffre a encore augmenté en 2021. Ce sont les jeunes adultes qui sont touchés de plein fouet par la précarité énergétique. Le médiateur national de l'énergie explique qu'ils ont particulièrement été touchés par la crise, avec pour certains des pertes d'emploi et des situations très difficiles, ce qui a engendré forcément des difficultés de paiement malgré les aides proposées par le gouvernement. Mais cette année encore, ils n'ont jamais autant limité leur chauffage pour faire des économies.
Merci Arnaud Touche de notre brigade RTL et bonjour, bienvenue à Jean-François Carinco. Vous êtes président de la commission de régulation de l'énergie, monsieur Carinco. Ces chiffres vous inquiètent-ils ?
C'est-à-dire les chiffres, quand on amalgame trop de choses différentes, ne m'inquiètent pas. Ce qui m'inquiète, c'est quand c'est bien ciblé et quand il y a des vrais sujets. Je prends un exemple. Les prix de l'électricité ont-ils augmenté en 2021 ? 2%. Tout autre message est faux.
Donc vous dites alors, aux jeunes Français qui grelottent chez eux qu'ils ne grelottent pas en fait ?
Non, pas du tout. Je dis, les jeunes Français qui grelottent chez eux, ben, il faut faire attention à des mesures qu'il faut prendre, Mais ils ne grelottent pas parce que le prix de l'électricité a augmenté. C'est simplement ça que je veux dire.
Et comment expliquez-vous qu'un sur deux des 18-34 ans ait du mal à régler ses factures cette année ?
Non, mais les factures de quoi ? Il y a le gaz et l'électricité. Oui. Ceux qui sont à l'électricité ont été augmentés de 2%. Ceux qui sont au gaz ont vu une augmentation incroyable. Et donc, c'est pour ça qu'il faut réagir. Pourquoi le prix du gaz augmente ? Le prix du gaz augmente parce que touche l'Europe et l'Asie, parce qu'il y a moins de gaz, parce que la demande est trop forte, et donc c'est un marché mondial. On achète le gaz à l'extérieur, et celui qui vous le vend plus cher.
Oui.
Donc, il a été décidé, et la CRE y a travaillé beaucoup, que les prix du gaz étaient bloqués à partir du 1er novembre, et je pense jusqu'au 1er juillet. Hein ? Donc voilà, au moins, là, c'est clair. Parallèlement, et on travaille beaucoup à l'application de cette mesure.
La date du 1er juillet est officielle et de façon définitive ?
Non, c'est ce sur quoi je pense qu'à la fin, ça va arriver.
D'accord.
Voilà, à la fin, ça va arriver. Quant au prix de l'électricité, il a augmenté de 2% en 2021 et il augmentera de pas plus de 4% en 2022. C'est la réponse qui est travaillée par tous ceux qui travaillent sur ce sujet. Nous, avec la DGEC, la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, la CRE et les cabinets ministériels. Je pense que c'est plutôt positif.
Peut-être je vous pose la question à l'envers. À partir de quand peut-on espérer une baisse du prix du gaz ? Et est-ce que c'est envisageable ?
Oui. Je vous rappelle que le gaz, il y a un an, il était à 5 euros le mégawattheure. Il est monté jusqu'à 95. C'est une crise mondiale jamais vue. Donc on pense que ça va redescendre. Il est redescendu un petit peu. On pense que ça va redescendre normalement à partir du mois de mars. Voilà. Et donc à partir du mois de mars, les prix français ne baisseront pas comme les prix mondiaux, puisqu'il s'agira de rattraper ce qui a été bloqué aujourd'hui.
Ce qui veut dire que le blocage des prix n'est pas une vraie réponse ?
Si, c'est une réponse. Une vraie réponse à quoi ? Il y a la vraie réponse au prix du gaz, c'est de consommer moins de gaz. Le gaz est parti pour être une donnée chère, rare. Je rappelle que la taxation du CO2, le quota carbone, font monter. Ils étaient à 5, ils sont à 60 euros la tonne. Donc le gaz à terme est une denrée chère. C'est pour ça que on essaie d'électrifier la société, tous les besoins, et réduire le gaz à ceux qui les absolument nécessaire d'avoir du gaz.
Et cette remarque de votre part nous amène ma dernière question, puisqu'elle est d'actualité. Le nucléaire est-il une solution incontournable pour assurer l'électricité de notre pays et accessoirement le chauffage ?
Le vrai sujet, c'est que si on ne fait rien, en 2045, quand on appuiera sur le bouton, il n'y aura plus d'électricité. Donc il faut faire quelque chose. Et
si on ne fait rien, c'est-à-dire si on ne fait pas quoi ?
Si on ne fait pas un certain nombre de mesures, du renouvelable, du nucléaire, de l'économie de consommation et de la flexibilité, c'est-à-dire le stockage, l'interruptibilité et l'effacement. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a une seule solution, c'est de faire tout à la fois. Ça, c'est absolument indéniable. Xavier Péchazic, le président de RTE, présentera cela le 26 octobre ou le 25 octobre. Si on fait beaucoup d'économies sur la consommation, la nécessité de production augmentera de 35% en électricité. Pour faire ça, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas le nucléaire contre le renouvelable. Tout ça, les gens n'y connaissent pas assez pour dire des bêtises comme ça. C'est tout ensemble. Sinon, on ne passera pas. On ne passera pas, mais j'ai confiance. J'ai confiance dans mon pays, j'ai confiance dans la sagesse qui, à la fin, va sortir du débat. Et je pense qu'on fera nucléaire, renouvelable, économie et flexibilité.
Merci Jean-François Carinco, président de la commission de régulation de l'énergie. Bonne journée à vous. Jonathan Griveaux était à vos côtés dans le camion rouge RTL. Et on a bien retenu que si on ne développe rien, en tout cas dans le partage de ces sources d'énergie, en 2045, en appuyant sur le bouton, on n'aura plus rien. Merci infiniment. Bonne journée à vous. Dans un instant, notre pépite musicale avec Anthony Martin.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Anthony.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Qu'avez-vous à nous faire écouter ce matin ?
Alors, il y a 50 ans, le 12 octobre 1971, le guitariste et chanteur américain Gene Vincent, un des pionniers du rock'n'roll, mourait à l'âge de 36 ans en Californie, rongé par l'alcool et emporté par un ulcère du foie. Gene Vincent, c'est ça. Bebop Lula, un des morceaux qui ont façonné le rock'n'roll composé par Gene Vincent lors d'un séjour à l'hôpital. On raconte aussi qu'il aurait acheté la chanson 25$ à son compagnon de chambre d'hôpital. Une chose est sûre, le morceau est sorti en 1956 en face B d'un 45 tours, mais les radios ont vite laissé tomber la face A pour s'en emparer. À la fin des années 50 à Paris, trois ados fans de Gene Vincent se piquaient le 45 tours pour l'écouter en boucle. Ils s'appelaient Jacques, Claude et Jean-Philippe. Peu de temps après, ils sont devenus Jacques Dutronc, Eddie Mitchell et Johnny Hallyday. Et 50 ans plus tard, eh bien, ils ont interprété tous les trois ensemble Bebop et Lula sur scène lors de leur concert des Vieilles Canailles. Et c'est notre pépite du jour, l'hommage des Vieilles Canailles à Gene Vincent. C'est émouvant hein, de voir Johnny, Eddie et Jacques, les anciens gamins du soir de la Trinité, reprendre en chœur Bebop Lula. On trouve cette version dans l'album des Vieilles Canailles. Pour la petite histoire, les notes de musique des deux premières mesures de Bebop Lula sont gravées sur la tombe de Gene Vincent en Californie.
Merci Anthony, on se dit à demain. Une nouvelle pépite musicale et rendez-vous sur l'application mobile RTL pour retrouver toutes vos pépites en podcast dans un instant. Quelques fake news imaginées par nos grosses têtes et un point complet sur notre météo avec Louis Baudin.
Bonjour Yves.
Je compte sur vous.
Ouais. RTL. RTL Matin.
Rendez-vous de 15h30 à 18h pour rire ensemble avec nos grosses têtes et leurs fake news.
Un vieux James Bond a été diffusé par erreur hier sur CNews. Vincent Bolloré avait exigé « Je veux Zemmour et re-Zemmour ». Sa secrétaire avait compris « Roger Moore ».
Valérie Mérès.
Édouard Philippe a lancé son propre parti qu'il a appelé « Horizon ». Il voulait que ça rime avec zonzon, au cas où le financement tournerait mal.
Olivier Kersauzon, pour terminer.
Anne Hidalgo vient de choisir la chanson de Lara Fabian, « J'y crois encore », comme hymne officiel de sa campagne.
Rendez-vous dès 15h30 avec Olivier Kersauzon, Stevie, Bernard Mabie, Valérie Mérès, Valérie Trierweiler et Florian Gazan, RTL, il est 7h31.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 12 octobre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Le patron des évêques de France, au rapport, Éric de Moulin-Beaufort, est convoqué cet après-midi au ministère de l'Intérieur. Dans le sillage du rapport Sauvé sur la pédophilie dans l'Église, il avait estimé que le secret de la confession est plus fort que les lois de la République. Alors de fait, le secret professionnel est inscrit dans la loi, mais quelle est la règle, Marie Guerrier ?
Il n'existe pas de liste exhaustive des métiers soumis au secret. On peut l'être par sa profession, médecin, infirmier, avocat, policier, ou par son état, comme être prêtre ou pasteur, ou encore par la mission que l'on remplit. Ça veut dire qu'une profession qui n'est pas soumise au secret professionnel, comme psychologue ou éducateur, peut le devenir dans le cadre d'une mission, par exemple dans un service d'aide sociale à l'enfance ou dans une prison. Le secret professionnel a pour objectif d'instaurer un rapport de confiance et de protéger la personne qui a besoin de se confier. L'article 226-13 du Code pénal sanctionne la violation du secret d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Mais il y a des exceptions prévues par l'article 226-14. Il autorise la révélation du secret auprès des autorités judiciaires, notamment en cas de sévices infligés à des mineurs. Et le seul cas où il existe une obligation qui peut amener à révéler des informations, c'est l'obligation d'assistance à personne en danger lorsque le péril est imminent.
Marie Guerrier, spécialiste des questions religieuses sur RTL.
Les images ont donc été vues plus d'un million et demi de fois sur les réseaux sociaux. Images choquantes de l'agression d'une prof dans sa salle de classe.
Oui, ça s'est passé vendredi dans un lycée professionnel de Comble-la-Ville en Seine-et-Marne. L'enseignante a été violemment poussée par un élève. Élève qui a été placé en garde à vue hier, ainsi que les deux jeunes qui ont filmé. Ilyes, lui, a aidé sa prof à se relever.
Une fois que la prof est tombée, il y avait du monde qui était sous le choc. Je me suis levé, je suis allé récupérer la prof. Il me semblait qu'elle avait mal au bras, mais je suis pas sûr après. Elle était allongée, elle était par terre et je suis allé pour la relever. Je lui ai demandé si elle allait bien, elle m'a même pas répondu. Et après, on a séparé Yacine, Yacine est partie dans le couloir, on a demandé si la prof elle allait bien et la prof, elle était sous le choc, on attendait que les proviseurs montent et une fois qu'elle est montée, elle a fait ses affaires, elle a décidé de partir du cours. C'est normal qu'on aille l'aider, elle est par terre, elle est sous le choc, c'est normal qu'on aille l'aider. C'est logique.
Témoignage recueilli par Guillemette Franquet. Xavier Bertrand fait volte-face. Fini le cavalier seul. Le président des Hauts-de-France participera finalement au congrès des Républicains qui doit désigner le candidat à la présidentielle. Ce sera le 4 décembre prochain. Il avait pourtant dit qu'il se présenterait quoi qu'il arrive alors.
Ce congrès, c'est la seule façon d'avoir le plus vite possible un seul candidat de la droite et du centre. La solution de facilité, c'était pas ça. La solution de facilité, c'était de faire cavalier seul. Avec des sondages, des enquêtes d'opinion qui me placent en tête. J'ai pas voulu faire ce choix. Parce que dans mon ADN, il y a le rassemblement et il y a l'union. Je veux rassembler l'ensemble des Français. Alors il faut que je commence par ma famille politique.
Xavier Bertrand hier soir sur TF1. L'atome superstar. Emmanuel Macron présente aujourd'hui son plan France 2030. 30 milliards au moins pour les investissements d'avenir. Il devrait notamment annoncer une vaste relance de la filière nucléaire avec l'argument du pouvoir d'achat puisque les prix de l'électricité et du gaz flambent. Et justement, il y a quelques minutes sur RTL, le président de la Commission de régulation de l'énergie annonçait un blocage des prix du gaz jusqu'au 1er juillet. Ça flambe aussi à la pompe. Le litre de gazole se vend désormais à plus d'1,53€ en moyenne. Le précédent record de 2018 est battu. Autre record beaucoup plus positif, le nombre de faillites est au plus bas depuis 1986. Ceux qui disaient que l'économie était sous perfusion des aides publiques se seraient donc trompés. Mauvaise nouvelle en revanche sur le front de l'emploi. Le groupe Société Générale annonce 3700 suppressions de postes nets d'ici 2025 après sa fusion avec le Crédit du Nord.
7h35, un sommet extraordinaire du G20 se tient ce mardi à Rome au sujet de l'Afghanistan.
Oui, car aujourd'hui au pays des talibans, on meurt de faim. 14 millions de personnes sont en insécurité alimentaire. C'est un tiers de la population. Salah Majalabi travaille pour l'UNICEF à Kaboul.
Les familles ne mangent pas assez, les mères ne mangent pas assez et donc n'ont plus de force ni de lait pour nourrir leurs bébés. Nous entrons dans une crise humanitaire et cela ne va qu'empirer avec l'hiver. Les familles sont obligées de faire des choix difficiles, se chauffer ou nourrir les plus jeunes. Les enfants sont obligés d'aller travailler ou de faire la manche.
Un propos recueilli pour RTL par Émilie Beaujard.
On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, et je vous parlerai du mystère des kangourous de la forêt de Rambouillet.
Ah oui, c'est formidable, des kangourous dans la forêt de Rambouillet. Ça me passionne. Ça, je suis sérieux. Un point météo avec vous, Louis.
Kangourous qui vont gambader sous un temps sec et de belles éclaircies cet après-midi. Effectivement, des éclaircies qu'on retrouvera quasiment partout. Alors, sauf dans le nord-est, c'est vrai que tout près de la frontière belge, entre Lorraine, Alsace, vers la Bourgogne, ça restera plus nuageux avec même quelques gouttes de pluie. C'est possible, il y en a déjà sur le nord de l'Alsace. Dans toutes les autres régions, donc le soleil finira par s'imposer après les dissipations des quelques brouillards matinaux. Grand soleil près de l'Atlantique, grand soleil également de l'Aquitaine à la Méditerranée où il restera un peu de mystère. Mistral et de Tramontane. Et puis les températures, c'est frais hein, ce matin. On n'est pas loin des gelées à Romorantin ou encore à Rodez. Et cet après-midi, 13 à 14 degrés seulement en Lorraine et en Alsace. 15 à 18 degrés dans les autres régions de la moitié nord. Et 19 à 21 dans le sud.
Je pensais aux kangourous qui vont être surpris quand ils vont croiser le président du Sénat dans la forêt de Rambouillet. Bonjour François Langlais.
C'est un des nôtres. Voilà ce qu'ils vont se dire.
Mais oui, ce soir c'est l'heure du général.
Oui, Emmanuel Macron s'apprête à présenter un grand plan de politique industrielle. Objectif, renouer avec la grande tradition de Gaulle. L'intendant suivra.
A tout de suite pour l'Angle Éco sur RTL. Bonne journée à tous.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'Angle Éco avec vous François Langlais.
Bonjour à tous.
Le président de la République devrait donc annoncer aujourd'hui plusieurs dizaines de milliards d'euros d'investissement dans les technologies du futur. C'est le retour de l'État stratège ?
Oui, et en bonne logique, on devrait se dire tous aux abris.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vous trouve très sceptique, dites-moi.
Mais parce que l'État stratège, c'est une fiction coûteuse pour le contribuable. En fait, l'État ne peut pas savoir quelles sont les technologies du futur. Regardez le plan d'investissement pour l'avenir. Ça avait été lancé par Nicolas Sarkozy il y a plus de 10 ans. On y a consacré des dizaines de milliards dans l'espoir de faire surgir un Google à la française.
Oui.
C'est encore plus rare que les kangourous dans la forêt de Rambouillet. Je ne dis pas que l'argent n'a servi à rien. Il y a des labos qui ont dû en profiter, tant mieux. Mais ça n'a pas changé fondamentalement la compétitivité française. Et ça a fait de la dette, c'est-à-dire des impôts futurs.
Mais attendez, il y a bien eu une époque glorieuse de la politique industrielle française, sous Pompidou, De Gaulle, enfin avec le nucléaire notamment.
C'est vrai qu'on invoque souvent les mannes de Gaulle en cette matière, particulièrement en campagne électorale. Quand on regarde dans le détail, pourtant, le bilan industriel du général n'est pas si florissant. Et c'est le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui nous le dit. Il vient de publier un livre sur De Gaulle et l'économie qui s'appelle « L'intendant suivra », justement. Je le cite.
Oui.
« À l'exception du nucléaire, où le fer de lance militaire tire le civil, les différents grands projets gaulliens sont des échecs. Que ça soit la télévision couleur, il parle du fameux standard CECAM, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui n'a jamais survécu, la tentative de créer une industrie électronique, c'est le plan calcul qui a été un échec terrible, ou le Concorde, dont on connaît le funeste destin.
Donc vous êtes sévère, il y a quand même eu le TGV qui a changé la France, non ?
C'est vrai, c'est l'un des succès, et pour être honnête, on pourrait ajouter l'industrie téléphonique dans les années 70-80, le spatial, avec Ariane Espace, premier lancement de satellite, c'était en 1979. Mais vous remarquerez que dans les trois cas, le client, c'était l'État lui-même.
Oui.
On sait faire ça en France. Vendre à l'État. Mais dès que le client n'est plus la puissance publique, on perd pied. Et c'est ce qui est arrivé à notre industrie téléphonique, qui s'est effondrée après la disparition du monopole. C'est aujourd'hui ce qui menace Ariane Espace, alors que là aussi, le marché du satellite explose, se privatise, et que de nouveaux entrepreneurs comme l'Américain Elon Musk ou Jeff Bezos ont produit des innovations de rupture à des prix ultra compétitifs. L'innovation en marché ouvert, c'est d'abord une affaire d'entrepreneur.
Alors on va être très clair et même direct, ça veut dire qu'il ne faut rien attendre du plan d'aujourd'hui ?
Écoutez, on va attendre le chef de l'État. Mais cette fois-ci, il semble quand même que le gouvernement veuille changer son approche. En partant du principe, justement, que l'innovation ne naît pas dans les grosses structures publiques, même si elles ont l'expertise technique. L'idée, ça serait d'organiser des sortes d'appels à projets internationaux, oui. Des concours, en somme, dans les secteurs de l'énergie, de l'alimentation, de la santé, avec un organisme qui aurait à charge d'évaluer les candidatures d'entreprises, entreprises et ou laboratoires, et puis de les financer en partie. Le modèle, c'est la fameuse BARDA, on en a parlé souvent ici, c'est l'agence du médicament américaine à laquelle nous devons le vaccin contre le Covid. C'est elle qui en a financé le développement après avoir justement sélectionné les projets. C'est une idée neuve en France, elle est intéressante, elle a intérêt à marcher parce que c'est quand même une idée à 30 milliards d'euros.
Bon, donc le modèle, c'est le BARDA, on s'en souviendra, merci.
Prenez votre BARDA.
Oui, prenez votre BARDA, mon vieux. Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve
sur le site. À propos de général, ça tombe pas mal.
Exactement, rtl.fr. Il est 7h42, bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
La directrice de la revue Témoignage Chrétien, Christine Pedotti, elle appelle à la démission des évêques après le scandale de la pédocriminalité dans l'église.
A tout de suite avec votre invité sur RTL.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Il est 7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Christine Pedotti, directrice de la rédaction de Témoignages Chrétiens.
Bonjour Christine Pedotti.
Bonjour.
Et je rappelle ces chiffres qui font froid dans le dos depuis les années 50. 3000 prêtres ou religieux ont agressé sexuellement plus de 300 000 enfants. Je voulais vous demander d'abord comment vous avez réagi lorsque vous avez entendu Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques, dire que le secret de la confession était plus fort que les lois de la République.
Je me suis dit que c'était vraiment pas la parole qu'il fallait dire à ce moment-là. Oui, il arrive que les lois de Dieu soient supérieures aux lois de la République quand il y a une insurrection de la conscience, dans un certain nombre de cas. Vous savez, moi, je dirige Témoignages Chrétiens. C'est un journal qui naît en 1941 dans la Résistance, parce qu'il y a des chrétiens qui disent on ne peut pas supporter la politique de collaboration et les lois anti-juives. Alors, voilà, ça,
donc
c'est...
Donc là, oui.
Vous voyez, donc, il y a raison. Mais dans la confession, le problème, c'est qu'il met en rapport l'idée de violer le secret de la confession et de violer un enfant. Ben, entre les deux viols, le choix est vite fait.
C'était pas du tout une maladresse.
Je ne sais pas ce que c'était. Je pense que il y a quelque chose dans l'habitude de penser des ecclésiastiques qui reste, qui date des longs siècles de l'Église, qui est que l'Église a une sorte d'exterritorialité par rapport aux lois humaines.
Donc elle se sent au-dessus oui. de la société, oui. au-dessus de la
oui.
République, au-dessus
pas,
de tout.
Ça n'est pas par hasard que d'ailleurs c'est là-dessus que Monseigneur de Moulin-Beaufort trébuche dans cette affaire, parce que finalement le rapport Sauvé met en lumière cette exterritorialité de l'Église, cette idée que effectivement on n'était pas soumis aux mêmes règles que le reste du monde. Mais et c'est ça qui a provoqué les silences et les drames.
Il n'aurait pas fait ça pour plaire aux croyants les plus radicaux.
Non, je ne pense pas du tout. Je pense que c'est vraiment de l'ordre de la maladresse dans un moment certainement de grande tension. Hein. C'est aussi un homme.
Le président de la République a demandé à son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de le convoquer, maître Monseigneur de Moulin-Beaufort, à s'expliquer en tout cas. Vous attendez quoi, vous, de cette convocation? Est-ce que Monseigneur de Moulin-Beaufort peut revenir sur ses propos?
Je pense qu'il va les atténuer. Et puis, d'ailleurs, dans le rapport Sauvé, puisque c'est là l'origine, il est demandé qu'il y ait une réflexion jurisprudentielle sur ce qui se passe dans le cadre de la confession. Je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la confession a souvent été le lieu même de l'abus. C'est-à-dire le viol des consciences qui s'est passé dans la confession entre un prêtre et un enfant a permis le viol du corps ensuite. Donc c'est encore pire que ce qu'on peut imaginer.
Mais le problème, il va bien au-delà du secret de la confession. Est-ce que bien le problème, c'est pas une Église qui se protège, qui étouffe les affaires? Est-ce que c'est pas ça d'abord?
En tous les cas, c'est ce que le rapport Sauvé a mis en lumière. Le rapport Sauvé emploie un mot terrible.
Mais vous, qu'est-ce que vous pensez,
vous?
Il dit
que c'est systémique. Moi, je suis sûre que c'est le cas. Je veux dire, finalement, le rapport Sauvé n'a fait que mettre en lumière des éléments que tous les croyants qui veulent bien avoir les yeux ouverts pouvaient voir, qui est qu'il y a un fonctionnement dans l'Église dans lequel le pouvoir n'a pas de contre-pouvoir.
Oui.
Et en fait,
c'est très hiérarchisé et personne en bas ne peut rien dire à ceux d'en haut.
Oui, ça rend le pouvoir fou, j'ai envie de dire, même les meilleurs. Et je ne dis pas que ces hommes sont mauvais, les hiérarques de l'Église catholique, hein, les évêques. Mais en fait, je veux dire, quand on a un pouvoir absolument sans contre-pouvoir, quand on est évêque, on est à la fois le patron, le DRH,
Mais on se sent tout puissant.
Le directeur financier, le juge. Je veux dire, c'est à la fois c'est un poids terrible, et ce poids terrible, eh bien, je pense qu'il n'y a que les saints, S-A-I-N-T, qui peuvent le porter. Et voilà.
En tout cas, vous avez décidé de monter au créneau pour défendre votre Église. Vous avez lancé un appel à la démission des évêques. Vous faites la révolution dans l'Église.
Ben, en tous les cas, moi, j'essaie de sauver mon Église. En fait, c'est ça que j'essaie de faire. Parce que si on ne fait rien... je veux dire, la crédibilité. Les évêques nous disent « nous avons honte, nous avons honte, nous avons honte ». Mais à un moment, il faut faire des gestes. Il faut faire des gestes à l'égard des victimes. Je veux dire, tout le monde a dans l'oreille le cri, littéralement, de la victime François Deveau, qui accuse et qui dit « il va falloir payer ». Alors, il faut payer en argent, mais il faut aussi payer en actes et en symboles. Et une façon de payer, c'est de dire « bah oui, nous répondons des actes qui ont été faits dans l'Église, et puisqu'il y a des responsables, il faut que ce soit eux, dans n'importe quelle organisation, quand une catastrophe pareille se produit, bah, les dirigeants démissionnent.
Vous dites du balai circuler à tous les évêques, c'est-à-dire que,
je dis pas du balai circuler. Je dis montrez-nous que vous avez compris qu'il s'est passé quelque chose.
Mais vous les mettez tous dans le même sac.
Ah parce que, mais oui, bien sûr, parce que ils font corps. Je dis pas qu'ils sont coupables. Je veux dire aujourd'hui, je pense que très peu sont coupables à titre personnel, mais tous sont responsables. Ils sont responsables. D'eux-mêmes, ils sont responsables du corps, ils sont responsables de ceux qui les ont précédés, parce qu'il y a une vraie solidarité. Vous savez,
combien
c'est la loi de l'Église qui dit ça.
Combien sont-ils, les
évêques
de France ?
Ils sont 120 en exercice aujourd'hui.
Une femme qui intime à des évêques de démissionner, ça pèse quoi réellement ? Vous pensez que vous allez faire le poids face à une Église ?
Ça pèse le poids de la parole que vous me laissez.
C'est déjà pas mal. Quelle chance d'aboutir ?
Écoutez, je pense que c'est le prix qu'il faut payer pour sauver une parole crédible de l'Église.
Non mais ils vont vous écouter, sérieusement.
Écoutez,
ces messieurs.
Mais il y a des précédents. Les évêques du Chili ont démissionné, le cardinal archevêque de Munich a démissionné. Je veux dire, ils ont pensé que c'était ça qu'il fallait faire pour qu'on les croie.
Christine Pedotti, je rappelle que vous dirigez la revue Témoignages chrétiens. Le pape François a exprimé son immense chagrin, même sa honte. Est-ce qu'il doit demander pardon en leur nom ?
Oui, je pense qu'il doit le faire. Et là, en l'occurrence, il y a eu, grâce à Jean-Paul II, l'idée que même les papes peuvent demander pardon pour les fautes de l'Église. Ça a été une sorte de pas extraordinaire qui a été fait. Et je pense que le pape François est capable de le faire.
Et avant la démission des évêques, est-ce qu'eux aussi doivent demander pardon ? Est-ce que ce serait préalable ?
Mais je pense que, d'une certaine façon, démissionner, c'est une façon de demander pardon. Et en tous les cas, puisqu'on est dans le catholicisme et qu'on sait faire des grandes célébrations, eh ben, il va falloir célébrer ce pardon et que ce soit visible.
C'est vous et Témoignages chrétiens qui aviez demandé en 2018 la création d'une commission d'enquête. La droite au Sénat l'avait bloquée. Rapidement, pourquoi ?
Parce qu'elle avait invoqué la séparation de l'Église et de l'État, à mon avis, sur un raisonnement juridique qui était faux. Mais je me dis qu'aujourd'hui, l'Église aurait peut-être préféré avoir une commission parlementaire plutôt que l'admirable travail qui était fait par M. Sauvé et sa commission.
Vous croyez qu'un jour, l'Église autorisera le mariage des prêtres ?
Elle l'a déjà fait, elle le refera.
Oui, mais en attendant, ça n'est pas dans la réalité.
Non, pas pour l'instant.
Merci beaucoup Christine Pedotti.
Merci à vous.
Une maladresse dans un moment de grande tension, c'est en ces termes que la directrice de Témoignages chrétiens évalue les récents propos du président de la conférence épiscopale. Tous sont responsables mais pas coupables, 120 évêques en France, que Christine Pedotti incite donc à démissionner. Merci, l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site RTL.fr. Nous sommes avec Philippe Cavrivière dans un petit instant.
RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
7h56, bonjour Philippe.
Bonjour.
Xavier Bertrand a donc annoncé hier aux 20h de TF1 qu'il participerait finalement au Congrès des Républicains.
Oui, le monde politique est en émoi. Comme pour le 11 septembre, on se rappellera à vie de l'endroit où nous étions au moment où Xavier Bertrand a annoncé sa participation au Congrès des Républicains. C'est tout un peuple qui a chavéré hier à 20h12. Une liesse populaire s'est emparée d'un pays en transe. Les Français ont envahi les Champs-Élysées. Ouais, non, laissez tomber, c'est ridicule, on n'y croit pas. Tout le monde s'en fout de cette info. Et pourtant, moi, je l'aime bien, Xavier Bertrand, parce qu'il il me rappelle Jacques Villeray en François Pignon. Il a ce côté rond. Il avait deux options, mon Xavier. Soit perdre avec panache, en candidat libre, soit prendre une branlée plus familiale, plus chaleureuse, en petit comité. Et il a choisi la deuxième option. Il a bien fait, c'est le 4 décembre. Donc il sera en vacances le 4 décembre, du coup.
Écoutez, l'adversaire que Xavier Bertrand redoute le plus, c'est en fait Michel Barnier.
Redouter Michel Barnier, c'est vous dire le niveau de confiance. C'est donc Michel Barnier, le Jobidan de l'Isère, qui est le grand espoir de la droite. Ils sont passés de la droite la plus bête du monde à la droite la plus chiante du monde. On a l'impression qu'il est en noir et blanc, Michel Barnier, tellement il est là depuis toujours. Alors les électeurs des Républicains l'aiment bien, Mich-Mich, parce qu'il est toujours resté fidèle au parti. Oui. C'est peut-être aussi parce qu'il n'a pas eu d'autres propositions. Moi, je suis toujours resté avec ma femme, mais c'est parce que je n'ai pas eu beaucoup de demandes à côté. J'ai eu aucune offre de grand club. voyez, la Fashion Week a été très calme pour moi. Elle a pas fait trembler mon couple.
Bon, écoutez, on est rassuré pour vous. Nous allons aborder le douloureux sujet de l'Église et notre invitée Christine Pelotti est restée pour vous écouter.
Pas sûr que ce soit une bonne idée, Christine. Mais promis, Christine, j'irai à confesse juste après la chronique. Vous connaissez cette phrase, je m'empresse de rire de tout, de peur d'avoir à en pleurer, d'être obligé d'en pleurer. C'est de Beaumarchais, hein. C'est pas de moi, je précise, parce qu'on nous confond souvent, tous les deux, avec Pierre Augustin. Donc on parle de 330 000 victimes. Pour que vous ayez une idée de l'horreur, c'est comme si les gars avaient abusé de toute la ville de Nice. Sauf que là, c'est des mineurs en plus. Ce n'est pas des retraités avec leur caniche sur la promenade. À la limite, abuser de toute la ville d'Aubagne. C'est petit, Aubagne. Mais Nice, ça fait du monde. Alors, cela dit, il faut reconnaître que chaque religion a son groupe de zinzin, oui. Un archi minoritaire qui pourrit injustement toute la communauté. Les musulmans ont les terroristes, les catholiques ont les pédophiles et les juifs ont Éric Zemmour. Voilà, c'est chacun sa croix.
Bon, Christine Pelotti demande la démission de tous les évêques de France.
Je suis bien d'accord avec Kiki, il faut virer les évêques, mais juste, il faut faire gaffe à leur reconversion professionnelle. Il faut éviter qu'ils deviennent animateurs au club Mickey ou moniteurs des scouts. D'ailleurs, si les scouts d'un groupe s'appellent Castor Épilé ou Marmotte Fourrée, il faut le signaler. Alors bien sûr, il faut la plus grande sévérité à l'égard de ces adultes qui ont abusé d'enfants. Mais quid des enfants qui, en confession, ont avoué avoir aguiché des prêtres? Car on ne le dit pas assez, mais il existe aussi des enfants prêtrophiles.
Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 13 ans, je suis prêtrophile depuis l'âge de 9 ans. Je suis attiré par les soutanes, les tonsures et les cendres de temple.
On va recevoir des lettres d'insultes. Alors on finit avec cette vidéo choquante d'une enseignante agressée par son élève.
Choquante. L'élève a été expulsé alors qu'il souhaitait déjà quitter la salle. Sacrée sanction. La prochaine fois, offrez-lui une paire de Nike en punition. Ce qui est fou, c'est que les enfants des parents violents soutiennent leurs enfants. Oui. Dans quelques années, ça va donner quoi? Je suis en direct du lycée Joestar. Le professeur de biologie aurait eu l'outrecuidance de proposer une interro surprise aux élèves de première techno ce matin. Les circonstances sont encore assez floues, mais il se serait alors fait introduire un microscope dans le sphincter.
Non.
Les parents des lycéens, dans leur grande mansuétude, ont décidé de ne pas porter plainte contre l'enseignant. À vous, Yves Calvi 3D.
L'œil de Philippe Cavrivière, chaque matin à 7h55 en direct. Et quand vous le voulez sur le site rtl.fr. À demain matin, je vais vous dire, il est 8h.
Ils ont là.
Oui, et à 8h, le journal de Dominique Tenza.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Les faillites d'entreprises n'ont jamais été aussi peu nombreuses et c'est la bonne nouvelle du jour.
Alors que beaucoup redoutaient un raz-de-marée avec l'arrêt des aides, le nombre de défaillances reste au plus bas du jamais vu depuis les années 80. Séquestré par sa mère et par sa sœur durant 3 ans, Gaëlle avait réussi à s'échapper au mois d'août. C'est la première fois qu'elle s'exprime. Elle a choisi RTL, vous l'entendrez dans un instant. Le nucléaire s'invite au cœur de la campagne. Emmanuel Macron s'apprête à débloquer plusieurs milliards pour développer les mini-réacteurs. De quoi s'agit-il? Ce sera l'enquête de la brigade RTL. Il avait dit oui, puis non, puis finalement oui, Xavier Bertrand accepte de se soumettre au vote des militants LR. Et puis après les supermarchés sans caissière, les supermarchés sans caisse, une première enseigne vient d'ouvrir, nous avons testé.
Cyprien Sini, votre sœur de l'info.
Dans les rues de Paris, entre les poubelles, comme un air de déjà-vu.
Suivez la fin du journal.
RTL Matin.
C'est sans doute l'un des grands paradoxes de cette crise. Alors que la pandémie a fait dérailler l'économie mondiale et la nôtre au passage, le niveau des défaillances d'entreprises reste aujourd'hui encore au plus bas. Bonjour Martial Youx.
Bonjour.
Alors il y avait les aides, cette France qu'on décrivait sous perfusion, tout ça s'est terminé. Pourtant le tsunami de faillite annoncé n'a pas eu lieu.
Oui, effectivement, on n'a jamais eu un niveau aussi bas depuis 1986. 5311 procédures engagées pendant l'été, c'est 21% de moins qu'il y a un an, et 2020 était déjà une année exceptionnelle. C'est simple, on enregistre 2 fois moins de faillites qu'en temps normal et on observe ce phénomène sur l'ensemble du territoire et dans la plupart des secteurs d'activité.
Alors la question, Martial, c'est est-ce que c'est durable ou bien un simple répit avant l'hécatombe?
Bah écoutez, on annonce le mur de faillite depuis un an et il ne se passe rien, donc tant mieux. Les chiffres que nous avons là sont encore liés à la période du quoi qu'il en coûte qui s'est arrêtée en octobre, donc on va observer la fin d'année. Il y a quelques signes d'inquiétude du côté des PME de moins de 20 salariés. Le nombre de procédures de redressement judiciaire judiciaire a augmenté de 30% ces derniers mois pour ces petites entreprises. C'est là qu'il peut y avoir des fragilités dans les secteurs du transport de fret, des équipements automobiles qui sont affectés par les pénuries de matériel.
Merci Martial Yeo, chef du service économie de RTL. Les faillites au plus bas, le gasoil en revanche au plus haut. Là aussi, un record, 1,53€ en moyenne le litre dans les stations-service. Jamais le diesel n'a été vendu aussi cher à la pompe. Le précédent record datait de 2018, enregistré à la veille de la crise des gilets jaunes.
8h03, le carburant, le gaz mais aussi l'électricité, le prix de l'énergie flambe. On vous en parle régulièrement sur notre antenne. Résultat, certains fournisseurs sont contraints de prendre des mesures radicales.
En résiliant carrément les abonnements de leurs clients. C'est le cas des contrats d'énergie proposés par Leclerc. Les prix du marché sont bien trop hauts pour être rentables. Les clients n'ont plus qu'à trouver un autre fournisseur. Par ailleurs, le médiateur national de l'énergie publie ce matin son baromètre. Et les résultats sont éloquents. 20% des Français interrogés déclarent avoir souffert du froid cette année, quand 60% d'entre eux affirment avoir réduit le chauffage, seul moyen de payer la facture. C'est le cas de ce retraité que vous avez rencontré, Alexandre de Saint-Aignan. Il vit à Aubervilliers, près de Paris, et il est totalement dépendant des prix du gaz.
Oui, cuisine, eau chaude, mais surtout le chauffage. Chez Alberto, tout est au gaz, et sa facture de l'hiver dernier lui donne encore des sueurs froides.
Bah écoutez, moi j'ai une chaudière, je la mets au minimum, hein. Et je l'atteins la nuit. J'ai eu des factures à 400 euros, j'étais étonné. Hein. Et là, ça va faire un peu plus ça, hein. Parce que 12% encore, ça fait beaucoup. Hein. On va faire attention cette année encore. On mettra des couvertures en plus.
Alors il préfère prendre ça avec le sourire, mais sa vie a bien changé depuis qu'il est à la retraite.
Chez moi, bon, il fait entre 18 et 20 degrés, quoi. Alors qu'avant, j'ai chauffé plus, quoi. Mais bon, c'est surtout le soir, quand on est à la maison, on est devant la télé, tout ça. Et puis le matin aussi, quand on se lève. Le matin, il fait frais. Hein.
Et pourtant, Alberto est loin d'être frileux. Hein. Sa femme et ses enfants aimeraient bien d'ailleurs qu'il monte un peu le thermostat.
Ah bah des fois, oui. Surtout le grand est très frileux, lui. Pas pareil, il fait froid, je prends la douche. C'est la douche, elle masse avec la chaudière aussi. Si on lui restait 3-4 minutes, bah tu restes 2 minutes à la douche. Hein. Après, ils disent, oui, papa, je comprends. Oui. Bah oui, il faut les payer, les factures. Hein.
Des factures qui, pour l'instant, et malgré ses efforts, augmentent beaucoup plus vite que sa petite retraite.
Un reportage signé Alexandre de Saint-Aignan. Et alors qu'il y a quelques jours, Jean Castex avait annoncé un blocage des prix du gaz à partir du 1er novembre. Sur RTL, ce matin, le président de la commission de régulation de l'énergie a déclaré qu'il prévoyait de maintenir ce blocage des prix jusqu'au 1er juillet prochain.
Et l'énergie lancera de nouveaux questions tout à l'heure, alors qu'Emmanuel Macron présente son plan très attendu, baptisé France 2030.
Le chef de l'État qui pourrait annoncer jusqu'à 50 milliards d'euros d'investissement dans des filières qu'il considère comme des filières d'avenir pour notre pays, et parmi elles, le nucléaire. Sur ce point, aucune ambiguïté, le président a fait son choix. Il veut miser sur le nucléaire pour assumer notamment notre indépendance énergétique. Et nous allons ce matin nous intéresser à ce qui sera peut-être l'avenir du nucléaire français face au gigantisme de l'EPR, dont on ne sait toujours pas s'il finira par voir le jour. Voici les mini-réacteurs. C'est le choix ce matin de la brigade RTL. Avec vous, Sophie Jousselin, bonjour.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
De quoi parle-t-on exactement?
Alors ces SMR, ce sont des petites unités, 10 fois moins puissantes qu'un EPR, beaucoup moins chères, 1 milliard d'euros contre près de 20 milliards pour l'EPR de Flamanville. On les fabrique en usine, puis on les installe, ils sont modulables. Vous pouvez en mettre un ou plusieurs, les uns à côté des autres, on peut même les enterrer.
Et alors à quoi ils servent ces mini-réacteurs?
Alors ça ne remplace pas une grosse centrale, ça vient en appoint pour des besoins localisés, comme nous l'explique Nicolas Goldberg, il est consultant en énergie au cabinet Columbus.
Ce sera pour les zones en bout de réseau, comme par exemple la Bretagne. Ça pourrait être développé aussi dans les îles. Dans les îles, on utilise encore beaucoup d'énergie fossile pour produire de l'électricité. Et enfin, on peut avoir des usines qui sont reculées justement pour éviter les nuisances, mais qui ont des gros besoins en électricité. On peut imaginer les alimenter avec des SMR.
Ça existe déjà aujourd'hui? On a déjà en fonctionnement, Sophie?
Alors, il y a quelques dizaines de prototypes en développement dans le monde. Les pays les plus en avant, ce sont les États-Unis, la Chine et la Russie. Nicolas Goldberg.
On a un petit modèle qui a été mis en service en Chine pour pouvoir alimenter les mines d'extraction de métaux. On a des barges flottantes qui ont été mises en service en Russie pour alimenter des zones reculées par bateau.
La France a aussi son prototype, c'est le projet Neward. Les premiers mini-réacteurs français pourraient être allumés en 2035, donnant un nouveau souffle à la filière nucléaire française.
La brigade RTL s'intéressait ce matin à ces mini-réacteurs qui permettront donc peut-être des maxi-profits. Nous verrons ça dans l'avenir. Merci Sophie Jousselin.
Revenons à présent sur le calvaire de cette jeune femme séquestrée par sa mère et par sa sœur dans la maison familiale de Charente-Maritime durant 3 ans.
Elle était finalement parvenue à s'enfuir en août dernier, trouvant refuge chez une voisine. Gaëlle, c'est le nom de cette jeune femme de 25 ans qui tente depuis de se reconstruire avec toutes les difficultés psychologiques liées au traumatisme vécu. C'est la première fois qu'elle se confie et c'est vous qui l'avez rencontrée pour RTL, Philippe de Maria.
Oui, Gaëlle parle vite et raconte précisément son évasion du 24 août.
J'ai crié par la fenêtre qu'on appelle la police, les policiers qui n'arrivaient pas. Je suis donc descendue en bas de la maison pour passer par la fenêtre du bas. J'ai essayé de passer par le garage. Ma mère ne me laissait pas sortir par le garage. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis passée par la fenêtre du bas. J'ai couru et j'ai été à la maison d'une voisine.
Elle passe 3 semaines à l'hôpital et sort contre l'avis des médecins. Son errance débute. Les services sociaux lui proposent bien des solutions, en foyer notamment. Mais Gaëlle refuse.
J'ai pas envie. Ce sera en commun pour manger, etc. Mais on m'a pas dit qu'on fermait le soir. Parce qu'on peut pas passer, une personne qui a été séquestrée à la renfermer encore dans un lieu.
Gaëlle se retrouve quasiment à la rue et croise alors la route de Marie-Béatrice Vergniaud.
Elle est arrivée et j'ai expliqué ma situation, comme quoi je voulais pas aller à la halte. Et elle m'a proposé de payer l'hôtel, de me donner un petit peu d'argent pour manger. C'est gentil de sa part. Ouais.
Elle a pas de famille, elle a pas d'amis. Après tout ce qu'elle a subi, c'est pas possible, il faut l'aider.
Et grâce à Marie-Béatrice, Gaëlle est maintenant en contact direct avec une élue de Sainte mobilisée pour tenter de lui trouver une solution qu'elle serait susceptible d'accepter après son calvaire.
Philippe de Maria. 3 lycéens ont passé la nuit en garde à vue à Comble-la-Ville en Seine-et-Marne après l'agression d'une enseignante vendredi, violemment projetée au sol par un élève. Une scène filmée, diffusée sur les réseaux sociaux et déjà visionnée près d'1,5 million de fois. Le parquet de Melun a ouvert une enquête pour violence avec circonstances aggravantes car commise envers un enseignant et au sein d'un établissement scolaire. Et puis cette dernière minute, près de Saint-Jean-de-Luz, un accident grave de TER. Le train a percuté 4 personnes. Le choc a été extrêmement violent. 3 sont décédés. La 4e en urgence absolue a été conduite à l'hôpital. Information signée Arnaud Touche.
Il est 8h09. Faire ses courses avec son téléphone sans passer par la caisse. Le supermarché du futur vient d'ouvrir à Roubaix et nous avons testé. À tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
8h11, RTL, la suite du journal de Dominique Tenza. C'est une première en France. Le groupe Auchan vient d'installer une supérette entièrement automatisée au sein du campus étudiant EDEC à Roubaix.
Baptisée Auchan Go, elle a pour particularité de n'avoir ni caissière ni caisse. Vous entrez, vous vous servez et vous repartez. Les explications avec Franck Hanson.
C'est un petit magasin sans aucun salarié à l'intérieur. Pour y accéder, il faut télécharger une application sur son téléphone en enregistrant votre carte bleue. Et Valère, étudiant de l'EDEC, peut donc acheter son sandwich et ses boissons.
Là j'ai un QR code sur mon téléphone, je vais avoir simplement besoin de le scanner à l'entrée pour pouvoir rentrer. Voilà, donc à partir de là on est dans le magasin, si on a besoin de quelque chose on a juste besoin de se servir.
Tout ce qu'on prend c'est compté dans notre compte.
Ce nouveau commerce ultra connecté permet de toucher une nouvelle clientèle, confirme Jean-Denis Devenne, directeur général Auchan France.
Ce magasin est un concentré de technologie. Il y a 28 caméras qui sont au plafond, qui repèrent les gestes d'un côté et qui repèrent les produits. Le produit est reconnu par sa forme, ses couleurs, etc. et par son poids. Pour nous, c'est une manière de travailler avec les jeunes générations pour concevoir le commerce de demain.
Un côté pratique et rapide qui plaît aux jeunes clients. Tant pis pour le manque de contact humain.
On peut faire toutes nos courses, c'est ouvert à n'importe quelle heure, si on finit les cours à 20h.
C'est super rapide et du coup ça nous fait un peu oublier le côté pas trop humain.
Pour l'instant, les premiers bugs techniques sont limités, d'autres points de vente devraient suivre.
Oui. Franck Hanson pour RTL.
Xavier Bertrand a donc mis fin au suspense en confirmant hier soir sa participation au Congrès des Républicains début décembre.
Alors qu'il espérait, vous le savez, s'imposer de manière naturelle, il devra finalement convaincre les adhérents d'un parti qu'il avait quitté avec fracas il y a bientôt 4 ans, sans ménagère à l'époque. C'est critique d'ailleurs. Marie Mollet, le candidat Bertrand, choisit donc de rentrer dans le rang, conscient qu'il n'a en réalité plus vraiment le choix.
Et oui, car depuis des mois, Xavier Bertrand l'a martelé, non à la primaire, au feu le départage. Il irait seul face au peuple français et il le disait encore il y a 10 jours à peine sur le plateau de France 2.
On en a soupé les primaires. Je ne changerai pas de position, je ne me renierai pas. Ma conception de l'élection de présidentielle, c'est un homme face aux Français qui présente son projet.
Sauf que hier soir, sur TF1, volte-face, Xavier Bertrand a changé d'avis.
Je participerai à ce congrès. La solution de facilité, c'était pas ça. La solution de facilité, c'était de faire cavalier seul.
Il se soumettra au vote d'un congrès. Alléluia, une étoile est née, se régalait hier un élu qui ne roule pas pour lui. Il s'était mis tout seul dans une impasse. Il est vrai, à force de jouer solo, Xavier Bertrand prenait le risque de passer pour le diviseur en chef, sans oublier qu'il aura besoin du parti et de sa précieuse cassette, l'argent nécessaire à sa campagne. Alors maintenant, le candidat a devant lui un nouveau défi, faire la cour aux militants LR. Et 3 ans après son départ fracassant du parti, certains risquent de se montrer un peu farouches.
Marie Mollet du service politique de RTL. Le groupe Société Générale annonce ce matin que sa nouvelle banque, issue de la fusion avec le réseau Crédit du Nord, entraînera 3700 suppressions nettes de postes d'ici 2025. Aucun départ contraint assure la direction. Et puis de quoi surprendre pour terminer les fans de Superman, mais visiblement le héros évolue avec son époque. Dans la prochaine bande dessinée qui sortira en novembre, le nouveau Superman, John Kent, le fils de Clark Kent, va tomber amoureux d'un homme en s'affirmant comme bisexuel. C'est ce qu'annonce l'éditeur DC Comics qui précise que le nouveau super-héros aura des préoccupations un peu différentes de celles de son père. Il sera très impliqué, par exemple, contre les injustices sociales ou le dérèglement climatique et ne se contentera pas donc de combattre les méchants.
Je résume, le fils de Superman est gay.
Bisexuel.
Ah, bisexuel. Merci beaucoup, c'était le journal de Dominique Penza. Dans quelques instants, sur cette belle musique, nous allons surfer avec Cyprien Sibi. Ah bah oui, John Williams, rappelons-le, vous avez raison.
RTL Matin.
Louis Bodin, notre météo avant de retrouver Cyprien Sibi.
Oui, avec toujours du temps sec, hein, quasiment partout, ça continue. L'anticyclone est là, il nous protège des perturbations. Alors pas totalement, c'est vrai qu'il y a quelques pluies qui ont circulé ce matin sur l'Alsace. Il y en aura peut-être très localement cet après-midi, près de la frontière belge ou encore dans le nord-est, mais ailleurs. Donc du temps sec toute la journée, avec plus ou moins de nuages. Un peu plus entre la Bourgogne et le nord-est, un peu moins en allant vers l'Atlantique et dans le sud. On aura toujours un peu de mistral et de tramontane, donc plutôt une journée agréable pour la période, avec des températures atteignant 13 à 14 degrés seulement en Lorraine et en Alsace, oui, c'est plus frais. 15 à 18 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 19 à 21 degrés dans le sud.
Et on se retrouve à 8h30 pour notre météo sans à 7 jours. Voici venir Monsieur Sini.
RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini.
Bonjour Cyprien, vous surfez à Paris entre les poubelles aujourd'hui.
Ah, la capitale.
Paris.
Le Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, et donc désormais...
Les odeurs d'urine, le slalom entre les crottes de chiens, les poubelles qui débordent, l'invasion des rats...
C'est bon, on a compris. D'ailleurs, le week-end dernier, sondage...
84% des Parisiens jugent que leur ville est sale.
Oui, amis qui avaient la chance de ne pas vivre à Paris, sachez-le, Paris est sale et les Parisiens s'en plaignent. Bon, ça, le Parisien qui râle, c'est contractuel, mais concernant la saleté, en fait... Et là, c'est pas nouveau non plus, c'est même visiblement intégré dans le logiciel du Parisien quand on écoute ce témoignage de 1968.
Oh non, mais c'est Paris, voyons, c'est naturel ça.
Mais oui, c'est naturel la saleté. Bon alors pour cette dame, 3 ans plus tôt, en 1965, ça l'était moins, visiblement.
C'est ignoble. Vous pouvez aller dans les quartiers même, des quartiers résidentiels, c'est une honte. Paris est sale, dégoûtant.
Et quand on écoute le même type de reportage, mais le week-end dernier sur BFM...
Ça devient, en parlant poliment, dégueulasse.
Et pourtant, 56 ans séparent ces deux témoignages. Bon, en même temps, du côté des élus, niveau explication, malgré les années, bah, ça se ressemble aussi pas mal. Hein. Le jeune maire de Paris, Jacques Chirac, en 77... Si les trottoirs sont sales...
C'est un problème, si vous voulez, de discipline.
Et oui, les gens font n'importe quoi. Et 40 ans plus tard, Anne Hidalgo...
C'est un problème d'éducation. Et je pense qu'il faut tout reprendre à la base.
Bah oui, en fait, c'est peut-être la faute du Parisien, tout ça. D'ailleurs, en 77, toujours, Jacques Chirac promettait une révolution.
Il existe actuellement des petits engins qui lavent les trottoirs. Car il faut de l'eau. Sans eau, on ne fait rien de propre. Ces petits engins, nous allons nous en équiper assez systématiquement dans les mois à venir.
Le petit engin qui va sauver le trottoir des crottes de chiens. Mais alors, on n'avait encore rien vu. Non, 5 ans plus tard, avril 82, Jacques Chirac vous présente la motocrotte.
C'est une moto équipée sur sa roue arrière d'un système spécial qui, par brossage très rapide et sans eau, permet de nettoyer les déjections canines.
Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est bien vendu. VRP en motocrotte, Jacques Chirac. Bon, après, ça devait pas être si efficace que ça, puisque ça coûtait quand même 4,5 millions par an. Elles ont été abandonnées. Et si ce week-end, le premier adjoint Emmanuel Grégoire annonçait comme nouvelle mesure phare...
Dans 10 jours maintenant, la police municipale parisienne sera officiellement créée pour faire en sorte que ceux qui ne respectent pas Paris ne puissent pas le faire en toute impunité.
Des agents municipaux pour sanctionner ceux qui salissent, formidable. Non, attendez,
En 77, il proposait quoi déjà, Jacques Chirac ?
J'envisage de confier à cet égard, en accord avec le préfet de police, aux agents féminins contractuels de la police, une mission pour faire en sorte que, sans verbaliser, ou à la limite en verbalisant, il y ait une autorité qui s'exerce pour canaliser cette discipline.
Ouais, bon, ben de toute façon...
Jusqu'à la fin du 19e siècle, les Parisiens jetaient encore leurs ordures par les fenêtres.
Et d'ailleurs, si c'est au préfet de la Seine, sorte de maire de l'époque, Eugène Poubelle, qu'on doit la poubelle et le ramassage en 1883... Ben c'est peut-être pas un hasard non plus.
Merci beaucoup, cher Cyprien. Rendez-vous à 18h40 pour défaire le monde avec votre équipe, comme
chaque jour. Info sérieuse sans se prendre au sérieux.
Ben voilà, c'est chez Julien Cellier. Dans un instant, l'homme qui irrite la Chine, Alain Richard, préside le groupe d'amitié France-Taïwan au Sénat et il a déclenché la foudre des Chinois. Il va nous expliquer tout cela dans un instant.
Calvi, RTL Matin.
Il est 8h25, bonjour Alain Richard.
Bonjour Yves Calvi.
Vous êtes sénateur affilié à La République En Marche, vous avez été notre ministre de la Défense lorsque les socialistes dirigeaient le pays et vous présidez le groupe d'amitié France-Taïwan au Sénat. Taïwan, un pays, je dis bien un pays, qui vous vaut les foudres de la Chine après votre récente visite sur place. En fait, pour Pékin, vous êtes devenu un homme dangereux. Expliquez-nous ça.
Oui, enfin... Ça oblige à parler un peu de comment les autorités communistes de Pékin s'expriment vis-à-vis du monde. Ils ont, pour eux, le principe qu'ils ont effectivement la légitimité internationale sur l'ensemble de la Chine. Ça, c'est le résultat d'une décision des Nations Unies, il y a 50 ans maintenant, qui a été suffisamment réfléchie par les différentes puissances et qui entraîne un certain nombre de conséquences. Il n'empêche que Taïwan, depuis cette époque, a beaucoup évolué, a beaucoup progressé économiquement, puis... politiquement et socialement. C'est-à-dire que c'est devenu, ce qui n'était pas le cas au départ, une vraie démocratie, un pays très développé. Et la Chine, depuis toute cette époque, a toujours dit « Un jour, nous reprendrons Taïwan pour que la Chine soit entière ». Il y a donc eu d'autres crises avec des approches militaires. Et de toute façon, la diplomatie chinoise a une doctrine qu'ils appliquent en disant ben, il faut qu'il y ait le moins possible de rapport avec Taïwan, qui n'est pas un vrai État. Or,
en quelque sorte, ignorer Taïwan.
Voilà. Faire que ce soit une zone un peu neutre dans la vie internationale. Or, nous sommes 60 ou 70 pays qui tenons des relations, pas exactement diplomatiques, mais tout de même largement officielles, avec ce pays, pour des bonnes raisons. Qui sont l'importance des échanges dans tous les domaines.
Alors, Taïwan est
aussi quand même des raisons de prévention de la guerre.
Deux choses. Taïwan est en effet un petit pays, mais est devenu un géant économique, en tout cas dans la région, nous sommes bien d'accord.
Absolument. Un des amis de la délégation disait Taïwan a le 21e PIB du monde, donc juste derrière le G20.
Et est-ce qu'il y a une menace militaire objective de la Chine concernant Taïwan ?
Bah oui, la disproportion des forces. Et là, et elle est là depuis longtemps, il y a eu des incidents militaires à différentes époques. La différence d'aujourd'hui, il y en a deux. La première, c'est que sur les 15 dernières années, je prends ce chiffre un peu au pif, la Chine a fortement développé et perfectionné en qualitatif son appareil militaire. Mmh. Ce qui va avec la croissance des grands pays, ou des pays moyens,
bien sûr,
observé à mon époque, mais manifeste de façon beaucoup plus explicite, démonstrative, sa volonté de s'en servir. Et je veux souligner que, bien entendu, ils sont menaçants de façon ostensible vis-à-vis de Taïwan, mais vis-à-vis de tous leurs voisins. Puisqu'il y a tous les conflits, vous savez, de possession de petites îles tout autour de la mer de Chine du Sud. Donc ça englobe le Vietnam, ça englobe les Philippines, ça englobe la Thaïlande. C'est-à-dire que tous les pays riverains de cette sont menacés par la Chine.
Expliquez-nous la pression au quotidien que la Chine exerce sur Taïwan. On dit parfois que ce petit pays peut effectivement déclencher une guerre.
Alors, moi par contre, je suis beaucoup plus réservé sur l'idée du déclenchement de la guerre, parce que Taïwan, non seulement a des capacités de défense très sérieuses, auxquelles d'ailleurs la France a contribué, mais bénéficie aussi d'un soutien explicite des États-Unis. Et cela, bien sûr, pour des raisons anciennes, mais aussi parce que, et là j'en viens aussi à la France, il y a un enjeu de prévention de conflits dans l'ensemble de la zone Indo-Pacifique. Parce que la puissance dont s'est donnée la Chine et le langage international qu'elle exprime conduisent à supposer que sa volonté est de changer l'ordre politique, non seulement de son environnement immédiat des 100 premiers kilomètres, si vous voulez, mais beaucoup plus largement, et notamment d'accéder au grand large du Pacifique.
On dit parfois
c'est un sujet pour le monde entier.
Pour le monde entier. Et on dit parfois, donc, que cette région est sans doute la plus explosive de la planète.
Vous... Ça, je crois que c'est vrai. Et c'est pour ça que la France, à son échelle, mais en tant que puissance globale, malgré tout, dit nous devons aussi avoir, nous, notre appréciation et nos choix de maintien de la sécurité dans la zone Indo-Pacifique. Pas tout seul, la France avec ses petits bras, mais en dialoguant avec les principales puissances de la zone, dans lesquelles il y a, bon, autre point important, les États-Unis et l'Australie, c'est vrai, mais aussi l'Inde et le Japon.
D'où la question,
avec
alors.
Avec lesquelles nous dialoguons de façon approfondie.
Et on comprend mieux ce qui vient de se passer aussi concernant nos sous-marins. Est-ce que vous avez été clairement menacé par les autorités chinoises ?
Non, non.
C'est pas
ça,
le cas ?
Ça, c'est de la blague. Ça fait un moment qu'ils ont identifié que j'avais ce petit rôle, hein, de responsable d'un groupe de sénateurs, ça ne bouleverse pas la face du monde, qui entretient des rapports avec Taïwan et qui a comme but, en réalité, non seulement d'informer nos collègues sur ce qui se passe, mais de faire un peu connaître à l'opinion française ce qui est en jeu à Taïwan. Donc, il nous asticote un peu, et le nouvel ambassadeur est un monsieur assez zélé de ce point de vue-là. Mais voilà, il m'envoie une lettre pour me dire c'est pas bien que vous alliez à Taïwan pour voilà les raisons de rappel diplomatique, etc. Je lui réponds mais pardon, nous ne changeons rien au statut de la Chine et à la reconnaissance d'État. Et je lui rappelle que nous avons aussi fait voter par le Sénat une résolution soutenant le gouvernement pour donner accès à Taïwan au moins aux organisations internationales spécialisées.
Il est normal que la France soit...
Et donc il a re-répondu, voilà.
Oui, il n'a pas répondu, donc il n'y a pas de drame. Un dernier mot avant de nous séparer. Quelle doit être la position de la France dans ce dossier, en quelques mots ? On doit montrer qu'on est présent et que nous soutenons d'une façon ou d'une autre Taïwan ?
On le fait à travers notamment la modernisation des armes qu'on leur a vendues. Mais je pense que sur un sujet qui est en partie lié à des démonstrations qui, je pense, n'aboutiront pas à un conflit, parce que ce serait assez coûteux et assez déstabilisant pour la Chine elle-même. Je pense que nous n'avons pas à faire de bruit, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas exactement la même approche que nos amis américains sur le sujet, qui disent qu'il faut faire une alliance militaire tout de suite. Or, si vous demandez aux Japonais et aux Indiens, qui sont des acteurs sérieux, ils auront exactement la même position que nous.
Merci beaucoup en tout cas, Anne Richard, de nous avoir éclairé sur la situation dans cette région du monde aujourd'hui. Bonne journée à vous.
Merci.
Vous êtes le bienvenu sur RTL et on va retrouver Louis Baudin pour notre météo à 7 jours. Cher Louis, comment ça se profile?
Ça se profile toujours bien, au moins jusqu'au week-end, hein, puisque les conditions anticycloniques résistent. Donc on a essentiellement du temps sec. Alors à cette époque de l'année, on sait qu'il peut y avoir des brouillards, des nuages bas le matin. Mais tout ça devrait se dissiper en cours d'après-midi, notamment pour la journée d'aujourd'hui, sauf dans le nord-est, on l'a dit. Demain, ça sera à peu près la même chose, avec toujours du temps sec dans la plupart des régions. Mais ces problèmes de grisaille le matin qui pourraient persister, notamment dans le nord, dans le nord-est, peut-être glisser un petit peu vers le massif central ou encore la région Rhône-Alpes en cours de journée, parce que demain le vent de nord sera plus assuré. Et d'ailleurs, les températures baisseront petit à petit. On aura du mal à dépasser les 15 degrés dans la moitié nord l'après-midi, sauf tout près de l'Atlantique. Et puis dans le sud, on sera entre 20 et 22 degrés, pas plus. Là encore, notamment près de la Méditerranée, il y aura toujours du mistral et de la tramontane. Pour la journée de jeudi, c'est la même chose, avec du temps sec, quelques nuages dans les régions du nord-est se dissipant plus ou moins rapidement l'après-midi. Vendredi, là sera une journée franchement plus nuageuse dans la moitié nord. La plus de nuages dans cette journée de vendredi, avec même quelques petites pluies possibles, notamment dans le nord-est, toujours du soleil dans le sud. Fera frais pour la période, avec des températures plus basses le matin. Et puis pour le week-end prochain, ça se confirme, le soleil devrait s'imposer, quelques brouillards le matin, mais ensuite du temps sec et ensoleillé. Bon, un peu frais le matin, on sera pas très loin des gelées dans beaucoup de régions, mais l'après-midi, encore 15 à 20 degrés dans la moitié nord et un peu plus de 20 degrés dans le sud. La pluie, c'est après, à partir de mardi. Voilà.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 8h35, je vous rappelle cette information que nous vous donnions dans notre journal de 8h. Une dernière minute, près de Saint-Jean-de-Luz, un accident de TER. Le train a percuté 4 personnes, le choc a été extrêmement violent. 3 sont décédés, la 4e est en urgence absolue. Elle a été conduite à l'hôpital, une information signée Arnaud Touche. Et bien entendu, nous continuons de suivre cette situation.
RTL autour du monde.
RTL autour du monde ce matin avec ce conflit sur la pêche entre le Royaume-Uni et la France. Londres a accordé plus de 200 licences définitives pour accéder aux côtes britanniques, mais Paris en réclame encore 244. Et le bras de fer s'intensifie puisque vendredi dernier, la France a menacé, si elle n'obtient pas gain de cause, de réduire ses livraisons d'électricité sur l'île de Jersey. Où vous vous trouvez, Vincent Serrano, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
95% de l'électricité de l'île est fournie par la France. Première question toute bête, est-ce qu'on est inquiet sur place ce matin ?
Alors à voir le promeneur avec son chien et les joggeurs qui viennent de passer devant moi sur le trottoir d'en face en bord de mer, les Jerseyens n'ont pas l'air vraiment angoissés. Ils ne lèvent pas non plus la tête pour voir si les lampadaires sont bien allumés. Même dans les pubs, hier soir on évoque à peine cette coupure d'électricité. Quand c'est le cas avec Andrew et John, c'est pour en rire.
Ça change rien à ma vie, je continue de travailler.
Je vais vous dire une chose, on paye pour cette électricité. Donc je sais pas à quoi vous jouez alors que vous êtes juste le fournisseur. C'est comme ça que je le vois, pas besoin de faire les gros bras.
Mais oui, on a entendu parler de ça, ça nous a bien fait rire. C'est un comportement de gamin, tout ça parce que vos centrales nucléaires sont de l'autre côté de la route. Continuez à avoir comme ça, comme une relation gagnant-gagnant. On pourrait très bien se mettre à couper des arbres pour faire de l'électricité.
Et puis j'ai jeté un œil à la presse locale ce matin, comme depuis plusieurs jours maintenant, la menace française est relayée en milieu de journal. Et au loin, en mer devant moi, je vois la lumière des bateaux de pêcheurs qui sont partis travailler comme tous les jours.
Alors ces pêcheurs justement, est-ce qu'ils sont inquiets ?
Eh bien, il n'y a qu'à voir les yeux de Phil se plisser en remontant son filet de pêche sur le quai, se gratter la tête à travers son bonnet bleu. Il a 61 ans, écoutez, dont 42 pêches. Et quand il commence à me répondre, il pointe du doigt une immense tour au milieu du port.
Vous êtes venu pour faire la guerre. Mon bateau est prêt à vous accueillir. Et vous voyez cette cheminée ? C'est notre générateur où on peut faire notre propre énergie pour éclairer cette ville pendant 100 ans. Si vous voulez savoir où est le problème, demandez à mon fils.
Vous ne pouvez pas avoir toutes les licences que vous demandez. Il y a à peine 60 bateaux à Jersey et le plus long fait 12 mètres. On est déjà en train de crever, la gueule ouverte. Ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier, c'est la première fois qu'on me menace.
Et dans son préfabriqué qui lui sert de bureau, Don Thompson le répète, la France demande près de 450 licences. Mais ici, on n'a jamais vu plus de 70 bateaux français pêcher. Alors il le dit lui aussi, on n'en veut pas aux pêcheurs français, ce sont nos amis, mais on en veut au gouvernement français.
Si vous commencez à faire des menaces comme ça, calmez-vous, parce que vous ne serez plus aussi bien accueillis. Nous aussi, on est des pêcheurs qui devons nourrir nos familles.
Don, Phil et Jack sont partis travailler ce matin en attendant donc sereinement de voir si la France met sa menace à exécution.
RTL autour du monde, merci beaucoup Vincent Serrano. On retrouve toute l'actualité internationale sur RTL.fr et ce reportage était particulièrement intéressant et tout à fait vivant. On vous retrouve Isabelle Choquet pour la face cachée de la Une.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Et vous nous racontez ce matin l'étrange histoire des kangourous de la forêt de Rambouillet. Alors moi,
je vois que ça vous amuse déjà.
Oui, c'est merveilleux.
Alors ce ne sont pas exactement des kangourous, mais des wallabies.
Ah oui.
Même des gaines de boxeurs à grosses cuisses, mais ils sont plus sombres et plus petits. On sait très bien comment ils sont arrivés là. On comprend moins pourquoi aujourd'hui ils disparaissent. Le magazine Society a mené l'enquête. Les kangourous, longtemps, ça n'a été qu'une rumeur de cueilleurs de champignons. Les gens qui en voyaient, ils hésitaient à le dire de peur de passer pour des cons, dit un chasseur. Ou qu'on leur répond, bah ouais, bien sûr, t'étais bourré, quoi. Il faut dire que le wallaby n'est pas facile à reconnaître. Il a le même pelage que le chevreuil, explique le chasseur. C'est quand il saute qu'on le reconnaît. Ah. On a fini par les compter. En 2015, ils étaient tout de même 150.
Ah oui.
Ces mini kangourous n'ont jamais vu la Tasmanie. Ils viennent du zoo de Bâle, en Suisse. Dans les années 70, le directeur en offre 7 à l'un de ses amis, un certain René Jamousse. Le Châtelain possède à l'époque un parc zoologique, la réserve de sauvages dans le village d'Émancé. Son truc à lui, c'est plutôt les oiseaux. Il a un genre de mépris pour les marsupiaux, des animaux pas spécialement rares, pas spécialement beaux et cons comme des brels, je cite, mais il accepte quand même le cadeau. Le parc est géré à la va comme je te pousse via une association bidon dirigée par un châtelain voisin. On avait un vétérinaire qui soignait à l'œil, dit Xavier Delabaume. On nous donnait des poussins morts pour nourrir les oiseaux. On avait des employés libanais et des polacs payés à la mano. Évidemment, l'entretien du site est du même tonneau, l'enceinte est un vrai gruyère et très vite, les wallabies en profitent pour se faire la malle. Combien au total? Aucune idée, balais de la Baume, je dirais une cinquantaine, mais je ne sais pas trop combien on en possédait. On ne les a jamais comptés, ni déclarés d'ailleurs. Les wallabies vont se reproduire comme des lapins, si on peut dire. Le climat tempéré leur va bien. Et puis, avec leur poche ventrale, ils mettent leurs petits à l'abri des prédateurs. Bah oui. Du coup, les accidents de la route se multiplient. La mairie d'Émancé finit par délivrer des attestations de présence des kangourous sur son territoire. Parce que quand un automobiliste heurte un wallaby, son assureur a souvent du mal à le croire.
C'est vrai.
Mais tout ça, c'était avant. Depuis 5 ou 6 ans, les kangourous ont disparu. Alors, les premiers soupçons se sont portés sur les chasseurs. Les wallabies emmerdent les cerfs sur les places de Brame, dit Xavier Delabaume. Pendant le rut, ces cons viennent sauter autour d'eux et les dérangent. Un rabatteur anonyme balance, un riche propriétaire a fait flinguer au silencieux tous les wallabies qui rôdaient dans ses sous-bois, ni vu ni connu, et personne ne l'a emmerdé. Légalement, la France n'interdit pas de chasser le marsupial, c'est un vide juridique.
Bien sûr.
L'autre explication, c'est la vogue des NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Sur le Bon Coin, on trouve des dizaines d'annonces, de 200 à 1200 euros. Il faut dire que les wallabies sont des proies faciles, un cerf ou un sanglier. Ça décampe dès que ça entend un craquement de branche à 300 mètres, explique un vidéaste animalier. Les wallabies, eux, on peut les approcher à 2 ou 3 mètres, ils n'ont pas peur de l'homme. Un filet ou une grande épuisette et hop, le tour est joué. Bref, les wallabies de Rambouillet sont probablement victimes des chasseurs et de leur grande naïveté. If you wallaby, enquête à lire dans Society en kiosque en ce moment.
Bah, c'était tout à fait étonnant. Merci beaucoup, on se retrouve demain.
Avec plaisir,
avec
à demain.
Avec plaisir, à demain, Isabelle Choquet.
Vous êtes comme ça.
Et nous vous proposons un Vous êtes comme ça extrêmement gourmand ce matin, avec un peu de sucré. Puisqu'on célèbre cette année les 25 ans de l'IGP, l'indication géographique protégée de la bergamote de Nancy. On vous retrouve, Samuel Goldschmidt, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à toutes et tous.
La bergamote de Nancy est un bonbon délicieux qui est arrivé là après un parcours extraordinaire.
Un parcours qui commence loin en Sicile, figurez-vous. La bergamote, c'est d'abord un fruit, une agrume qui pousse là-bas. Peut-être le croisement entre une orange amère et un citron vert. La pulpe est proprement immangeable. Au Moyen-Âge, on le mettait dans les coffres à linge pour sa bonne odeur, jusqu'à ce qu'on se mette à extraire de sa peau épaisse un jus extraordinaire. Jean-Luc Guivic est le président du label Bergamote de Nancy.
On obtient un liquide complètement verdâtre qui va juste être filtré. Si jamais on fait subir à l'essence de bergamote le moins de traitement, elle n'est plus essence naturelle.
L'Italien Jean-Marie Farina va emmener cette essence en Allemagne, où il invente en 1708, devinez quoi ? L'eau de Cologne, qui contient de l'essence de bergamote. Ce parfum va se répandre dans toutes les cours d'Europe jusqu'à Lunéville, où le cuisinier du roi Stanislas crée en 1751 une pastille à la bergamote.
Nous y voilà, Samuel. C'est donc un goût ancré en Lorraine depuis en fait 3 siècles.
C'est cela. Jean-Luc Guivic, qui est aussi confiseur, en parle en orfèvre.
Tous les petits Lorrains, vous leur faites goûter une bergamote, ils vous diront « j'aime » ou « je n'aime pas », mais c'est de la bergamote. Un petit garçon du sud de la France, vous faites la même expérience, il vous dira « j'aime » ou « j'aime pas », mais je ne sais pas ce que c'est.
Alors on va la fabriquer, cette bergamote, ça commence dans un grand chaudron sur le feu.
C'est toujours le même principe, le principe de base de la confiserie. On va réaliser ce qu'on appelle une fonte, avec l'eau, le sucre, le glucose lorsque les choses bouent. Le sucre bout, vous pouvez venir voir. On va y mettre de l'essence de bergamote et là, vous pouvez faire travailler vos narines parce que là, ça va... Là, vous allez avoir tout le laboratoire qui va sentir... Vous êtes parfumé pour la journée.
Ce sucre chaud est renversé sur la table de travail.
Dans nos métiers, là, on va utiliser exactement les termes des verriers. Tout à l'heure, on a fait une fonte, comme on parle d'une fonte de verre. Là, on a fait une coulée de bergamote, comme on parle d'une coulée de verre. Et là, on va aller le cuire au cassé, parce que notre échantillon va se casser comme du verre.
C'est toute une science pour attendre la bonne température et façonner les bonbons.
La pâte passe dans un laminoir en bronze. Ce bronze évite que le sucre colle.
Les bonbons ambrés sont ensuite tamisés. Puis emballé individuellement à l'aide d'une redoutable machine. Et voilà ce parfum unique enfermé dans un bonbon carré de 5 grammes. 4 confiseurs défendent cette recette qui est donc protégée jalousement depuis maintenant 25 ans.
La bergamote de Nancy, on regrette juste de ne pas avoir le parfum avec nous. Merci beaucoup Samuel Goldschmidt. On retrouve Laurent Gérard dans un instant et Cyril Lignac pour son astuce qui concerne aujourd'hui le risotto.
RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi.
8h47, bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Revirement
purement de Xavier Bertrand. Ah bon. Après avoir refusé catégoriquement de concourir à une primaire de la droite, il se résout finalement à participer au congrès des Républicains qui désignera le candidat. Nous recevons ce matin le patron de LR, Christian Jacob.
Ah bah voilà, on fait moi les malins maintenant que j'ai ramené le petit gros à la maison. Hein. Oh, on s'est bien foutu de moi, avec mes candidats éparpillés. Bah sachez-le, ma petite fille, mon deuxième prénom, c'est Machiavel.
Oula.
Parce que croyez-moi, réussir à arnaquer un assureur, c'est pas une mince affaire.
Vous êtes donc satisfait?
Bertrand va être désigné candidat, il sera au second tour, il est élu président et Bibi est à Matignon et voilà le travail.
Oui, sauf que Michel Barnier, lui aussi candidat, aurait les faveurs des militants LR.
Oh non, mais c'est pas vrai là, c'est pas vrai. Le cauchemar continue. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec Barnier et moi? La dernière fois qu'il est venu chez vous, Alba Ventura s'est endormi. Ah, mais moi aussi, je suis candidat.
Ah, bonjour Éric Ciotti. Oui. En effet, Christian Jacob, monsieur Ciotti, lui aussi progresse dans les sondages.
Oh, bah voilà, bon, alors là, c'est la totale. Maintenant, il y a Ciotti qui me vole dans les plumes. Je ne suis pas un canard. Oui, bah, t'es gentil, hein. Tu restes dans ton coin. Je ne suis pas un canard.
Dominique Strauss-Kahn est dans la tourmente depuis la révélation des Pandora Papers. Il a en outre fait l'objet d'un portrait à charge dans l'émission Cache Investigation, diffusée jeudi dernier. Mm-hmm. Bonjour monsieur Strauss-Kahn.
Bonjour Michel.
Tout ça c'est du bullshit, paraît-il.
Oui, c'est du bullshit. Au départ, c'est de ces condamnations, il y a un énorme ragot.
Lapsus révélateur.
Pas du tout, le fait que l'affaire des Pandora Papers soit révélée 3 jours avant la diffusion de Cash Investigation m'a mis la puce à l'oseille, à l'oreille.
Il y a encore un lapsus, vous soupçonnez Lise Lucet?
Tout à fait, et je vais me défendre. Croyez-moi, elle ne l'emportera pas au paradis fiscal. Oh, au paradis, pardon.
C'est quand même bizarre tous ces lapsus que vous faites. On était habitués à vos lapsus sexuels, mais là, ce sont des lapsus financiers.
S'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, je peux revenir au registre sexuel et qu'Élise Lucet, elle va l'avoir dans le pognon, dans l'oignon. Ah zut, j'y arrive plus.
Ah bah oui, décidément. D'autant que j'ai prononcé 3 fois le mot lapsus. Dans lapsus, il y a...
Lap.
Voilà. Enfin, c'est fou, décidément, cette affaire vous affecte beaucoup. Hein.
C'est le signe que je suis l'objet d'une machine à sous. D'une machination. Alors, un piège, c'est possible. Un complot, nous verrons.
Philippe Martinez, le patron de la CGT, n'en démord pas. Il s'oppose à la réforme de l'assurance chômage, bien que celle-ci soit déjà en vigueur. Mm-hmm. Bonjour Philippe Martinez.
Ah, bonjour, qu'est-ce qu'on dit, nous autres, à la CGT? On dit que la réforme à Macron, on n'en veut pas, et puis c'est tout.
Bon, rappelons qu'avec cette réforme, une partie des jours non travaillés au cours des 24 derniers mois seront comptabilisés pour le calcul de l'indemnité, je l'ai bien dit, au lieu d'une division des salaires bruts des 12 derniers mois par le nombre de jours travaillés.
Ouais, à la CGT, nous autres aussi, on fait des mathématiques en CM2 et on sait bien que 2 et 2, ça fait 5. Mmh. Alors, faut pas nous prendre pour des jambons. Mmh. On a fait nos calculs. Et une fois de plus, c'est les travailleurs et les travailleuses qui trinquent.
Mais qui payent l'addition.
Non, qui trinquent. Qui trinquent au bistrot parce que ils n'ont pas d'emploi. Alors du coup, ils passent leur journée aux zingues. Mmh. Et qu'il n'y a pas de raison que ça ne soit pas Macron qui leur paye leur coup de blanc, ou leur coup de rouge d'ailleurs, ou jaune. Parce que nous autres, à CGT, on n'est pas des racistes sur la couleur.
D'accord. Qu'est-ce que vous proposez alors?
Ça va où, là?
On propose un grand retour à l'emploi dans un secteur d'avenir qui est écologique en plus.
Oui, lequel?
Manifestant à pied professionnel entre République et Nation.
Ah ben en effet. Vous vous opposez aussi à l'allongement de l'âge de la retraite. Certains parlent de 65 ou même 67 ans.
Bah, qu'est-ce qui va se passer dans les EHPAD? Les travailleurs, ils seront plus âgés que les pensionnaires. Du coup, aux Espérides, c'est Robert qui changera la couche de Monique, son aide-soignante.
Bah, c'est sûr que vu comme ça...
Alors, qu'est-ce qu'on dit, nous autres, à la CGT? Qu'est-ce qu'on dit, à la CGT? On dit que tout le monde doit partir à la retraite à 25 ans.
À 25 ans?
Bah ouais. Comme ça, on a réglé le problème d'emploi. Ah. Plus de chômeurs, que de retraités. Que des retraités. Vous voyez, c'est simple.
Oui, c'est
pas besoin d'avoir fait des études à Macron pour trouver des solutions.
Du 9 au 17 octobre se tient, comme chaque automne, à Lyon, le Festival Lumière. Nous sommes en direct avec un fidèle de ce prestigieux festival de cinéma, l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, aujourd'hui conseiller municipal. Bonjour monsieur Collomb.
m'entendez bien ?
Mais oui, très bien, mais il y a des bruits d'animaux autour de vous. Vous n'êtes pas à Lyon ?
Si, je voulais aller voir un film à l'UGC Confluence, mais je suis bloqué dans ma voiture par la transhumance.
La transhumance à Lyon ?
Oui, c'est une initiative écologique soutenue par la ville de Lyon, qui n'en est pas une bonne idée près, comme ça. C'est authentique. Il s'agit, le dis, de créer des interactions entre les piétons et les moutons. Mais comme les moutons font entre 6 et 8 km par jour, forcément, ça n'avance pas.
En somme, vous n'êtes pas très emballé par cette idée d'une transhumance urbaine.
Pourtant, j'aime bien les moutons. Surtout le gigot d'agneau et aussi les pieds de mouton en salade qu'on appelle les clapotons à Lyon.
Mais qu'est-ce qui se passe près de vous là ? Un automobiliste en colère ou quoi ?
Non, c'est la caravane de chameaux qui est passée au rouge.
Une caravane de chameaux ?
Oui, c'est une nouvelle expérimentation de la sémillante et brillante mairie écologiste de Lyon.
Oui.
Les chameaux apportent le sel et les épices aux cantines municipales. Ça évite les camions.
Ouais, là aussi, on vous sent un peu désabusé. Hein.
Mais pas du tout. Mais je crois que je n'arriverai jamais à voir mon film. J'aurais dû prendre la navette fluviale tirée par des bœufs.
Ben vous le saurez pour la prochaine fois. Vous étiez en route pour aller voir quoi à propos ?
Soleil vert de Richard Fleischer. Il paraît que ça prédit le futur et que ça fait peur.
Ben oui. L'énergie nucléaire s'est invitée dans la campagne électorale. Centrale nucléaire ou éolienne, le débat fait rage. Mais il existe de nombreux autres types d'énergie renouvelable. Ah oui. Faisons le point avec notre ami Jean-Pierre Pernaut.
Eh oui, ma petite Jade, comme le dit le proverbe en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors prenons tout de suite, la route de nouvelle région, direction Eagle le Tartuffe, dans la région du Ruquier Joufflu, à la rencontre de Jean-Pierre, qui a révolutionné l'énergie hydraulique avec l'invention d'un barrage qui ne nécessite pas d'eau.
Un barrage sans eau ? C'est impossible, ça.
Mais si, comme le dit cet autre proverbe qu'on aime beaucoup, impossible n'est pas français. Et c'est ce que démontre Jean-Pierre avec son barrage aux heures les plus sombres de notre histoire. Avec la montée inédite d'Éric Zemmour dans les sondages, ce qui lui permet de chauffer toutes les maisons du Ruquier Joufflu sans débourser un centime.
Mais c'est astucieux. Un autre exemple, peut-être.
Tout à fait. Prenons maintenant la route de Lens-le-Bourg, en Haute-Maurienne, à la rencontre de Jojo, qui a inventé le premier vélo électrique sans batterie.
Un vélo électrique sans batterie. Mais comment est produite l'énergie ?
Tout simplement par sa femme, puisque le vélo électrique de Jojo est un vieux tandem sur lequel il a installé son épouse, qui pédale pendant qu'il contemple les jolis paysages d'automne. Une idée pleine de bon sens dont devraient s'inspirer les start-upers de la capitale.
Je me disais aussi.
Mais notre tour d'horizon ne serait pas complet sans un détour par la Fistinière, où le maire d'hiver droite, Jacques Chiasson, actuellement en campagne électorale, sillonne les routes de France dans son bus au jus d'oignon. Un carburant 100% naturel récolté chaque soir.
Oui, merci, ça ira, ça suffit, on n'a plus le temps, Jean.
Moi, je voulais voir, je voulais entendre Jackie.
Jackie,
vous êtes là.
Enfin, on me donne la parole. Il n'y a pas comme M. Zemmour.
Écoutez, non, mais c'est important qu'on puisse vous entendre dans le débat actuel, M. Chiasson.
C'est sûr.
Vous allez m'entendre. Mais,
bon, tout va bien chez vous.
Tout va bien.
Oui. Alors, on vous souhaite le bonjour, n'est-ce pas ?
Eh bien, bonjour.
Et on vous retrouve sur le site RTL.fr avec toute votre équipe.
C'est ça.
Jackie Chiasson, l'avenir de la France est assuré.
Voilà. Merci.
Maire d'hiver droite.
Oui, il est maire d'hiver droite, absolument. Dans quelques instants, c'est Lignac nous rejoint. Il va nous donner sa recette de risotto. Ça vous plaît, ça, monsieur Chiasson ?
Oh, que c'est bon.
Voilà. Allez, à tout de suite.
RTL Matin. Yves Calvi.
Bonjour Cyril Lignac.
Bonjour.
Aujourd'hui, c'est Laurent de Nice qui vous demande conseil pour bien cuire un risotto. C'est une bonne question. Il voudrait connaître votre recette du moment, d'ailleurs.
Alors, moi, déjà, le risotto, c'est vraiment un plat que j'adore parce que c'est... Déjà, c'est un repas à part entière, c'est hyper nourrissant, on peut l'agrémenter de ce que l'on veut. Je me suis fait plaisir, c'est la saison des cèpes. Donc risotto aux cèpes, ça marche super bien.
Formidable.
Donc là, on prend une sauteuse, une casserole, on met de l'huile d'olive, on met un demi-oignon qu'on a coupé finement. Et là, on le laisse cuire tout doucement, sans coloration.
D'accord.
À ça, on ajoute 300 g de riz et là, on va nacrer le riz. C'est-à-dire qu'on va faire éclater la petite peau du riz pour permettre ensuite... Quand on va mettre le bouillon, que ça gonfle et que ça cuise doucement.
Un riz blanc traditionnel ?
Un riz rond, à risotto.
Il faut le dire.
Et oui, un riz à risotto, bien entendu. Et ensuite, une fois que c'est bien nacré, j'ajoute un verre de vin blanc qui va nous donner l'acidité. Mmh. On laisse évaporer. Et ensuite, on met du bouillon. Donc là, on fait un bouillon de légumes à côté. Et petit à petit, on ajoute du bouillon. Le bouillon réduit, le risotto cuit, ça épaissit. Et on remet du bouillon pendant 18 minutes. Quand le risotto est cuit, il faut bien qu'il soit un peu liquide. Là, on va ajouter le parmesan râpé et du beurre frais. Mmh. Et là, on remue. Et là, il commence à être bien crémeux et bien onctueux.
Vous voyez, on dit parmesan râpé, beurre frais, tous les deux, on sourit.
Ah ben oui, bon, quoi, mais bon. Parce que c'est ça qui est bon. Voilà. Et alors ensuite, on ajoute... Ben, j'ai envie de dire ce que l'on veut. On peut soit le laisser nature, soit on peut faire une poêlée de champignons. C'est la saison des cèpes avec de l'ail, du persil. Et on les dépose dessus et on mélange. On peut aussi le faire au poulet, on peut le faire aux crevettes. On peut le faire avec ce que l'on veut. À vous de jouer.
Magnifique. Merci beaucoup. C'est simple et délicieux. Mmh. Je vous rappelle que nous sommes en pleine semaine du goût sur RTL. Vous nous aidez chaque jour à mieux cuisiner pour mieux manger avec de bons produits et de bons conseils. On retrouve évidemment toutes les informations sur le site rtl.fr. À demain, cher Cyril.
À demain.
9h02, Dominique Tenza. Vous revenez avec les dernières informations concernant cet accident de TER.
Oui, une information principale ce matin, cet accident grave de TER près de Saint-Jean-de-Luz. 4 migrants ont été violemment percutés par un train. 3 d'entre eux sont décédés sur place. Un autre est en urgence absolue. Il a été transporté à l'hôpital selon les informations recueillies par RTL. Les 4 personnes étaient étendues sur les rails à l'arrivée du train.
Merci Dominique.